numéro 240-249, une collection de nombreuses épîtres choisies à des amis de cet ancien, éminent et fidèle ministre de Jésus-Christ, George Fox, volume 1, suite 240, La vie contre la forme amie. Toutes les choses extérieures, figures, types, ombres et inventions, ont été établies depuis la chute d'Adam, invention que Christ détruit, et les types, figures et ombres de lui, il les accomplit, et il relève l'homme hors de la chute jusqu'à la semence où il était avant de tomber, et ainsi. Caïn différait d'Abel en matière de culte, Abraham de ses compatriotes et de sa nation. De même, en matière de culte, Moïse et les enfants d'Israël différaient des Égyptiens et des Cananéens, et des autres nations. Pourtant, après que les enfants d'Israël eurent été tirés d'Égypte par la puissance de Dieu, combien vite ont-ils dressé un veau, une chose extérieure? C'est pourquoi dans la puissance de Dieu, et dans sa sagesse, demeurez au-dessus de toute chose. Et combien vite Corée, Dasen et Abiram commencèrent à offrir un sacrifice étrange, après avoir été tirés d'Égypte par la puissance de Dieu, et ils s'éloignèrent de la puissance de Dieu, dans laquelle ils auraient dû offrir, gardez donc la puissance de Dieu. Et combien vite les enfants d'Israël, lorsqu'ils se multiplièrent et devinrent nombreux, offrirent hors de la vie de la loi et de la puissance de Dieu, alors leur sacrifice était comme égorger un chien et bénir des idoles, gardez donc la vie et la puissance de Dieu. Et vous pouvez voir que la religion et le culte de Daniel différaient de ceux de Nebuchadnetsar, l'empereur de Babylone, et différaient aussi de ceux des Chaldéens et des Perses, comme les vôtres viennent maintenant à différer de tous les apostats, sortis de la vie et de la doctrine des apôtres et de Christ. Et il y a le mystère de Babylone, comme les Juifs différaient de Babylone extérieure, gardez donc la puissance de Dieu, qui garde au commencement. Et vous pouvez aussi voir quelle différence il y eut parmi les églises au temps primitif, au sujet des viandes, des boissons, des jours et des temps, mais l'apôtre leur dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en de telles choses, mais en justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Et ils ne devaient pas se juger les uns les autres à ce sujet, car les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, mais Dieu détruira l'un et les autres, et il leur montra qu'il était au-dessous des chrétiens de disputer sur de telles choses. Et aussi, quelles disputes y eut-il dans l'Église au temps primitif au sujet de la circoncision, dont l'apôtre les détourne, leur disant que ni la circoncision ni l'incirconcision ne valent rien, mais une nouvelle créature. Ayez donc égard à cette nouvelle créature, et à la foi qui agit par l'amour. Et comment aussi il y eut des disputes au sujet du baptême et du repas, et au sujet des hommes, les uns étant pour Paul, et les autres pour Apollo, etc. Mais l'apôtre les dirigea tous à connaître Christ, la semence dans l'homme et dans la femme, et leur dit qu'il prêchait Christ en eux, et les exhorta à s'examiner eux-mêmes, à se mettre eux-mêmes à l'épreuve, et à savoir qu'il est en eux, autrement ils étaient réprouvés, et il les détourne des choses visibles, car les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Or ces choses sur lesquelles ils disputaient étaient des choses visibles, et non des choses éternelles, mais temporaires, car s'ils ne venaient pas à Christ Jésus, la substance de ces choses, ils demeuraient dans la réprobation loin de la vie, de la vérité et de la substance. Et aussi, quelles disputes y eut-il parmi les chrétiens primitifs au sujet du mariage des croyants et des incrédules, et de la séparation des croyants d'avec les incrédules, ce dont l'apôtre leur dit que le mariage devait être honoré de tous et le lit sans souillure, et qu'ils devaient demeurer ensemble, le croyant avec l'incrédule, et que le croyant sanctifiait l'incrédule de sorte que leur enfant n'était pas impur mais pur, et qu'il valait mieux se marier que brûler, bien qu'il parlât aux mêmes Corinthiens d'un état qui était au-delà de ce. Et de même aussi, quelles disputes y eut-il au sujet des ministres et des docteurs, au sujet de ceux qui se transformaient comme en anges de lumière, et de ceux qui prêchaient pour un gain honteux, et de ceux qui ne servaient pas le Seigneur Jésus-Christ, mais leurs propres appétits. L'apôtre met un terme à tout cela et les ramène à la vie, à la semence et à la puissance de Dieu au-dessus de tous, et il montre au sujet du mariage comment Dieu les fit hommes et femmes au commencement, ce qui était le mariage honorable avant l'état souillé. Et de même, quelle dispute il y eut à propos de savoir si la femme devait être voilée, ou si l'homme devait être couvert, lorsqu'il priait ou prophétisait, en quoi l'apôtre établit parmi eux une bienséance, que l'homme soit découvert et la femme voilée, puisque l'homme était l'image et la gloire de Dieu, et la femme la gloire de l'homme. Néanmoins, il voulait qu'ils sachent que Dieu était le chef de Christ, et Christ le chef de l'homme, et l'homme le chef de la femme, et que la femme avait été faite pour l'homme, et non l'homme pour la femme. Et ainsi vous pouvez voir que ces Corinthiens n'étaient pas parvenus à l'état d'Adam avant sa chute, et d'Ève, puisque les apôtres exposaient ainsi leurs états. Et tandis que certains disent « Christ est le chef de l'homme », etc., lequel chef de l'homme, disent-ils, est le même qui est chef de la femme. Remarquez, si cela est ainsi selon cette interprétation qui est une déformation, alors Christ devrait être couvert dans la femme quand elle prie ou prophétise, et la femme devrait avoir pouvoir sur Christ, et si elle était découverte, alors Christ devrait être tondu ou rasé, ce qui est ridicule et montre alors une différence de Christ dans l'homme et dans la femme, ce qui n'est pas le cas car Dieu est le chef de Christ et Christ le chef de l'homme tel qu'il a été fait, et l'homme le chef de la femme. Mais comme la femme a reçu la tentation, et l'homme aussi, ils sont donc tous deux dans la chute. Or cela a été dit comme l'homme avait été fait avant sa chute, et à mesure que l'homme remonte hors de la chute, et la femme aussi, Christ dans l'homme et dans la femme est le chef des deux. Mais cela fut dit aux Corinthiens, qui n'étaient pas parvenus à l'état où Adam et Ève étaient avant de tomber, parmi lesquels il y avait cette différence au sujet de se couvrir ou de se découvrir, si l'homme devait être découvert et la femme voilée lorsqu'il priait, etc. C'était l'ordre convenable que l'apôtre établit parmi eux, et il leur dit qu'il devait y avoir des hérésies parmi eux, afin que ceux qui étaient approuvés fussent manifestés, et il regardait comme hérétiques ceux qui disputaient contre son ordre et sa pratique convenable, ce qui, comme dit plus haut, était adressé à ceux qui n'étaient pas parvenus à l'état d'Adam et Ève avant la chute, car ceux qui y sont parvenus à cet état par Christ sont parvenus avant les couvertures extérieures. Et ceux qui sont venus à Christ sont venus à la fin de la prophétie, à la semence Christ, la pierre de fait, en qui toutes choses prennent fin, laquelle pierre de fait et pierre angulaire est au-dessus de tout ce qui pose, finit et change. Que votre vie soit donc en celui qui ne finit jamais ni ne change jamais, et en qui il n'y a ni changement ni variation. Ceux qui sont parvenus à cela ne retourneront pas aux choses extérieures. Et vous pouvez aussi voir quelle dispute il y eut parmi ceux qui interdisaient les viandes, les boissons et les mariages, et cela en vinrent à adorer les anges et à des voix de contrainte, qui après un temps se séparèrent et apostasièrent de Christ et des apôtres, et devinrent ensuite des antéchrists dans une anti-liberté intérieure, contre ceux qui connaissent toutes choses bonnes et bénies comme elles l'étaient au commencement. Ceux qui sont là sont sortis de l'état où Adam et Ève étaient avant la chute, où toutes les disputes portent sur des choses. Et ce n'est pas prêcher l'Évangile, qui est la puissance de Dieu, qui était avant les types, figures et ombres, et qui fait sortir d'eux. Et dans cette puissance de Dieu est la communion de l'Évangile, qui dure pour toujours, ainsi la communion est éternelle et n'a jamais de fin. Jour des apôtres, les disputes de l'apostasie ont introduit des sectes, des schismes et des hérésies loin des apôtres. Hors de la vie et de la puissance de Dieu où ils étaient. L'apostasie était dans les choses extérieures et au sujet des choses extérieures, et leurs yeux étaient fixés sur elles, et il y eut des disputes à leur sujet. Or vous qui avez vu l'Évangile éternel et connu l'Évangile éternel prêché de nouveau, tel qu'il était parmi les apôtres, et qui avez été moissonné d'entre les apostats, surgit depuis les jours des apôtres. Et en cela l'homme voit l'état bienheureux, comment toutes choses étaient bonnes et bénies, et comment toutes les œuvres de Dieu sont parfaites, et il se voit lui-même comme l'œuvre de Dieu, qu'il avait établi dans la domination avant sa chute, comme il était dans la puissance, l'image et la justice de Dieu. Et ainsi Christ, qui tire l'homme hors de la chute, que tous les types, figures, ombres et choses typiques figuraient, met fin à tout cela, il est la substance de toutes choses variables et changeantes, en qui tous les vrais chrétiens ont la vie et vivent de sa vie. Or les disputes des Juifs contre les chrétiens portaient sur leurs choses extérieures, dans la première alliance, la loi et le premier sacerdoce, qui soutenaient ces choses que Dieu avait commandées, ne voyant pas celui dont les vrais chrétiens rendaient témoignage, qu'il resterait hors de toutes les choses changeantes, jusqu'à l'état où l'homme était avant de tomber, et avant que ces types, figures et choses changeantes fussent, or depuis les jours des apôtres, et aussi de leur temps des choses se mettaient en place que les apôtres jugeaient, et elles étaient aussi établies. Et la chaleur de certains esprits s'éleva si haut au sujet de leurs choses extérieures, que lorsqu'ils n'étaient pas reconnus ni reçus, leur sacrifice, leur culte volontaire, leur humilité fin, leur observance des jours et des temps, leur interdiction des mariages, l'établissement de leur doctrine et tradition, qu'il ne fallait ni toucher, ni goûter, ni manier, ils entrèrent avec envie dans la voie de Caïn et celle de Balaam, et se mirent les grands de leur côté, admirant les personnes à cause de l'avantage qu'ils en tiraient. Ceux-là s'éloignèrent de la voie de Dieu, qui les avait fait sortir d'Égypte, comme Corée le fit. Et tous les esprits envieux se sont élevés contre ceux qui étaient dans la puissance de Dieu en tous âges, parce qu'ils ne pouvaient pas observer leurs choses extérieures qu'il avait établies pour être observées, ce que ceux qui étaient dans la puissance universelle de Dieu, qui étaient avant la chute, ne pouvaient jamais faire, car leur liberté consiste en cela. C'est pourquoi Caïn est plein de colère contre son frère, lui qui est l'errant et le vagabond éloigné de la voie, de la vie et de l'acceptation de Dieu. Ainsi vous pouvez tous lire l'état dans la chute hors de la puissance de Dieu, où ont été la contrainte et la coercition vers les choses extérieures, qui ont maintenu les gens hors de la puissance, et les ont empêchés de remonter au commencement, et de la communion universelle, dans cette chute et cette apostasie, ils se sont brisés en de nombreuses sectes, têtes, amas, noms et peuples. C'est pourquoi vous tous, chers amis bien-aimés, qui connaissez la puissance universelle de Dieu, qui passe au-dessus de toute l'apostasie et de la chute où sont la malédiction, la colère et le malheur jusqu'au commencement, vous connaissez la rédemption hors de cet état vers le commencement, où toutes choses vous sont bénies, à vous qui vivez dans l'amour et la vie, dans lesquelles vous avez la paix éternelle avec Dieu. Gardez donc l'œil universel et la puissance de Dieu, qui vous garde au-dessus de tout jusqu'au commencement, qui est l'œil pur, car l'œil impur est dans la chute, hors de la puissance de Dieu, car tout l'établissement des choses extérieures dans l'apostasie et dans la chute ne fait que retenir les gens loin de leur demeure et les empêcher d'y retourner, c'est-à-dire à l'état où l'homme était avant de tomber pour remonter à cet état à la maison de nouveau, ce que lorsqu'il y parvient, il est sorti de la chute et aussi de l'apostasie. Or ceux qui font ainsi, c'est-à-dire établissent des choses extérieures, rassemblent les gens à eux-mêmes, non à Dieu, ni pour les ramener à leur première demeure, car ceux qui établissent des choses extérieures ont perdu leur première demeure, afin de maintenir les gens dans la chute. Adam et Ève ont perdu leur demeure, Caïn a perdu sa demeure pour n'avoir pas bien agi, Balaam s'est éloigné de sa prophétie et de sa demeure pour n'avoir pas bien agi. Et tous ceux qui se sont éloignés des apôtres dans la voie de Caïn, de Corée et de Balaam, ayant perdu leur demeure, sont ainsi venus sous une chaîne de ténèbres. De même, tous ceux qui ont été intérieurement ravagés loin de l'Esprit de Dieu, et qui sont allés vers les choses extérieures depuis les jours des apôtres, dans l'apostasie, ont perdu leur demeure, et ont établi des choses extérieures pour empêcher d'autres d'entrer dans leur demeure, et alors, s'ils ne les observent pas, ils sont en colère contre comme Caïn. Et Corée s'est éloigné de sa demeure, de la puissance qu'il avait fait sortir d'Égypte, et ainsi ceux qui perdent leur demeure perdent leur premier amour. C'est pourquoi pour vous tous, voici la parole du Seigneur Dieu, vous qui avez goûté sa puissance, et cru en sa lumière, et joui de sa lumière par laquelle vous voyez sa semence, gardez vos demeures, alors vous garderez votre premier amour, alors vous garderez l'unité et la communion, alors vous garderez la domination. Et que Caïn, Balaam, Corée, et tous les apostats, et les diableurs de la vérité, et les fils d'Adam dans la chute rugissent et s'emportent autant qu'ils voudront, vous dans vos demeures, et dans vos maisons remontant au commencement, vous êtes en sûreté et en paix. En cela, vous sentez la puissance, la vie et la semence de Dieu, qui ne se modifie ni ne change jamais, en cela vous avez la bénédiction et la promesse de Dieu, et vous connaissez l'état où est la malédiction, pour ceux qui s'éloignent de leur demeure et perdent ainsi leur premier amour. En cela, demeurant dans vos demeures et dans votre premier amour, la puissance de Dieu et sa semence, la pierre de fait, sont établies au-dessus de tout. Et dans la sagesse de Dieu, vous en venez à répondre à ce qui est de Dieu en chacun, et ainsi vous entrez dans la domination, et dans la demeure où vous entendez la voix de Dieu, et voyez l'état bienheureux, où toutes choses sont bénies avant l'apostasie d'où l'homme fut chassé loin de Dieu. En cela, vous sentez la vie et la puissance, et la semence qui demeure lorsque tout ce qui est dans la chute et l'apostasie a disparu. En cela, vous connaissez le royaume du Fils Dieu qui dure pour toujours. En cela vous connaissez l'adoration de Dieu en esprit. C'est pourquoi vous, dans la semence universelle de Dieu et la puissance de Dieu, qui sont toutes choses, qui ne finissent ni ne changent jamais, en cela que tous demeurent et vivent, afin que vous sentiez la semence établie au-dessus de tout, et la pierre de fait posée au-dessus de tout, lui qui est le premier et le dernier. George Fox, 241. Chers amis, tenez vos réunions au nom du Seigneur Jésus-Christ qui n'est jamais tombé, en qui vous pouvez voir au-dessus de toutes les réunions rassemblées par tous les fils d'Adam, qui sont hors de la puissance et de la vie. Vous qui êtes rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ qui n'est jamais tombé, vous le sentirez au milieu de vos assemblées, dans la lumière, la vie et la vérité. Ainsi regardez au-dessus de toutes les prisons des méchants, vers la semence de Dieu, Christ, qui était avant qu'elle ne soit, et qui subsistera quand elles auront toutes disparu. Ainsi ne prêtez jamais attention à la tempête, à l'orage ni à la grêle du méchant, ni à ses flèches, ni à ses instruments de cruauté, que jamais le dos ni les cheveux, la joue ni l'épaule ne se détournent de lui. Bien que bien des armes soient forgées contre lui et ses disciples, elles ne prospéreront jamais, car la semence, Christ, régnera sur tout, et subsistera quand ils auront disparu, lui qui était avant eux. Ainsi soyez fidèles au Seigneur Dieu, et soyez vaillants pour sa vérité sur la terre, montrant que quelque chose s'y opposera, autrement pourquoi prononcer le mot « vaillant ». Ayez donc égard à la vérité et non aux persécutions du méchant et à la voie vivante, qui est Christ Jésus, qui n'est jamais tombé et ne change pas, en qui vous pouvez voir au-dessus de toutes les voies des fils et des filles, d'Adam dans la chute, qui, elle, change. Étant dans la voie, Christ Jésus, qui n'est jamais tombé et ne change pas, dans cette voie vous avez la vie éternelle, en laquelle vous voyez au-dessus de tout ce qui est dans la chute où est la mort. Ainsi, Christ étant la voie, celui qui abandonne sa voie abandonne sa vie. Et celui qui ne sort pas de la voie d'Adam qui est tombé, pour entrer dans la voie d'Adam qui n'est jamais tombé, vit dans la mort. Que tous donc se hâtent et courent pour leur vie vers Adam qui n'est jamais tombé, hors d'Adam qui est tombé, car les voies d'Adam qui est tombé sont les voies de la mort, mais Adam qui n'est jamais tombé est la voie de la vie. En Adam dans la chute sont le trouble et l'inquiétude, mais en Adam qui n'est jamais tombé sont la paix et le repos. En Adam dans la chute sont les ombres et les retournements, mais en Adam qui est la voie vivante, il n'y a ni ombre ni retournement. Ainsi chacun en Adam qui n'est jamais tombé, Christ Jésus, qui ne change jamais, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Alors vous avez accès à la voie vivante, en laquelle vous avez tous la vie en Christ, la voie vivante qui n'est jamais tombée. Ainsi, il est la voie, et celui qui abandonne la voie, Christ, abandonne sa vie. En cela tous peuvent proclamer, qui a quelque chose contre cette voie, Christ, qui n'est jamais tombée ni changée, c'est Adam qui a changé, et Ève qui a changé, et leurs fils et leurs filles dans la chute sont dans les voies de chute, de changement changeable. Mais ceux qui sont en Christ, qui n'est jamais tombé, voient au-dessus de tous dans la chute, qui tourne avec chaque vent lorsqu'il se lève. Ainsi, dans votre voie, vivez tous en Christ Jésus, et vous sentirez la lumière, la vie et la puissance, cette vie qui était avec le Père avant que le monde fût. En cela tous se nourrissent, et en cela sentez la puissance, et cette voix ne change jamais avec les vents et la tempête, et le cri « Hâtez-vous, hâtez-vous, hors des mauvaises voies d'Adam et d'Ève, dans la mort, la chute et les changements, et courez, courez hors d'elle, vers le second Adam, la vie, et la voix qui n'est jamais tombée ni ne change. » George Fox, 242. Les armes des saints sont spirituelles, afin que la bénédiction de Dieu vienne sur tous les hommes. Nous ne sommes contre aucun homme, mais désirons que la bénédiction du Seigneur vienne sur tous les hommes, et que ce qui apporte la malédiction soit détruit, et avec patience nous l'attendons, et nous luttons contre cela avec des armes spirituelles, et non contre la personne d'aucun homme ou d'aucune femme. Car parmi nous Christ est roi, lui qui apporte la bénédiction et détruit ce qui a apporté la malédiction. Et quiconque demeure dans la justice, homme ou femme, et aime la miséricorde, et agit avec droiture, et marche humblement avec Dieu, et à l'humilité qui précède l'honneur, nous ne sommes pas contre lui. Mais quiconque agit injustement ou n'agit pas avec droiture, ni avec justice, ni ne marche humblement devant Dieu, et voudrait l'honneur avant l'humilité, Dieu renversera cela par sa puissance. Que votre foi repose là-dessus, car nous ne regardons pas les personnes, mais la puissance de Dieu, et nous connaissons le règne de Christ parmi nous. Et comme on dit, Dieu sauve le roi ou Dieu bénisse le roi, nous ne voudrions pas qu'il fût détruit, ni qu'aucun homme fût détruit, mais sauvé et ainsi béni. Et l'homme sauvé ne souffrira pas que règne quoi que ce soit qui détruit. Telle est donc notre pensée, et nous voudrions que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, dont les persécuteurs sont exclus. Et vous tous, amis, demeurez dans la puissance sans fin du Seigneur, en laquelle la suprématie est connue, et la puissance qui n'a pas de fin, dont la domination est au-dessus de toutes les dominations, et subsistera quand toutes les autres auront une fin. Et en cela se ressent la patience, qui court la course et obtient la couronne, et cela possède la sagesse qui est douce, fraîche et pure, par laquelle la vérité vivante a la suprématie et la domination, et en cela tenez vos réunions. George Fox, 243. Tous mes chers amis, voici votre jour pour demeurer en celui qui est demeuré ferme et a régné sur le vieil Adam et le diable, et sur tous les persécuteurs. Le vieil Adam n'a pas tenu bon, mais Christ, le second Adam, l'homme céleste, a tenu bon et n'est jamais tombé. Vous, je dis, tenez-vous en lui, car c'est maintenant votre temps de vous tenir dans la vie au-dessus de la mort, et dans la lumière au-dessus des ténèbres, et dans la semence qui écrase la tête du serpent, en qui vous avez tous la vie, la domination et la paix. Le Seigneur vient sur les méchants dans sa puissance tonnante, car ils sont mûrs, car ils sont tous corrompus de sang, et leur chair est pourrie, et ils sont tombés dans la fosse, conduits par leurs guides aveugles dans la fosse et les fossés, où ils pourrissent et empestent, putréfiés par la chaleur de leur convoitise. George Fox, 244. Aux amis à la Barbade, en Virginie, au Maryland, en Nouvelle-Angleterre, et ailleurs, sur les dangers des raisonnements charnels, aux amis, vous tous qui avez goûté la puissance du Seigneur Dieu, et sa vérité, qui est pure et n'admet aucune impureté ni changement. Oh, ayez donc égard à la sainte vérité, qui ne laissera rien d'impur vivre en vous. Car rien d'impur ne peut entrer dans le royaume de Dieu, et aucun de ceux qui désobéissent à la vérité ne doit entrer dans le paradis de Dieu, car à cause de la désobéissance, l'homme et la femme furent chassés du paradis. Ainsi donc, partout, ayez égard à la pure puissance du Seigneur Dieu, et à la vérité qui vous a d'abord convaincu astérisque. Et tout ce qui s'est élevé par la raison charnelle, et par vos yeux se détournant de la puissance de Dieu et de ce qui vous a convaincu, que cela soit purgé de vos cœurs, sinon, cela élèvera vos cœurs vers des consultations, la subtilité, les questionnements, les raisonnements et les disputes. Je sens trop de ce qui s'est élevé dans la mauvaise partie de l'entendement, par laquelle une mauvaise liberté s'élève, qui apportera une peste dans le cœur, pire qu'une peste extérieure. Oh, considérez donc, la vie et la puissance de Dieu n'ont pas la suprématie dans tous vos cœurs, car je sens que certains esprits, et certains corps, ont laissé entrer ce qui les a souillés et les souille. Oh, purifiez, 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 et joignez-vous à la pure puissance immortelle, car la puissance du Seigneur Dieu se fera place, soit en purifiant, soit en vomissant, soit en rejetant ceux et ceux qui ne se joignent pas à la puissance de Dieu. Sodome, cet esprit prostitué et adultère, doit aller au feu, et Corée contredisant englouti dans la terre. Astérisque, être convaincu signifie être devenu certain de la voie requise pour le salut, et non recevoir le salut lui-même. Toutes les personnes nouvellement convaincues étaient auparavant des lecteurs ferves de la Bible, professaient que Jésus était le Fils de Dieu, avaient été baptisées, assistaient aux offices des sectes, etc. Mais elles étaient toutes encore captives du péché et savaient qu'il devait y avoir un moyen d'être libérées même du désir de péché. Lorsqu'elles entendirent proclamer la voie pour devenir pures, pour être libérées du péché, leurs cœurs rendirent témoignage à cette vérité. Elles se joignirent donc à d'autres qui cherchaient à être libérées du péché, en attendant dans un silence humble pour entendre le Maître intérieur, lui obéir, et recevoir sa grâce transformatrice qui leur enseignait à renoncer à l'impiété aux convoitises du monde, et comment vivre dans leur monde alors avec sobriété, justice et piété, être rachetés de toute iniquité, et purifiés, puis avoir un zèle. Ce processus de la conviction à la pureté exigeait qu'ils continuent, au fil du temps, à accomplir leur salut avec crainte et tremblement. Parce qu'ils tremblaient en présence de l'Esprit de Dieu œuvrant sur leur cœur, leur montrant leurs péchés, les convainquant des secrets de leur cœur, ils tremblaient ou frémissaient, et ainsi ils devinrent connus sous le nom de Quakers. Et il abattra ce qui a été élevé. Le balai, la brosse, du Seigneur s'avance pour balayer, la bougie du Seigneur est allumée pour sonder chaque coin de vos maisons, car les justes marchent dans le sentier qui est une lumière éclatante, qui n'admet aucun rebut. Oh. Sortez de toutes ces choses que vous avez entretenues dans vos pensées, que vous n'avez pas reçues de ceux qui vinrent vous servir au commencement. Oh. Demeurez dans la puissance du Seigneur Dieu, afin qu'elle vous garde humble, et prenez garde de vous élever dans la suffisance et dans l'air, et d'établir ce qui ne concerne pas le royaume de Dieu, mais la crêle, que ni les apôtres ni les saints depuis, dans la puissance de Dieu, n'ont jamais établi. Car si vous le faites, la puissance de Dieu balayera cela et vous emportera tous. Et, ô vous qui venez à être des vases d'honneur, et des vases des miséricordes de Dieu, ayez de l'estime pour vos corps, car ceux qui souillent leurs corps ne sont ni des vases d'honneur ni des vases de miséricorde, mais de colère, et sont destinés à la colère. Gardez donc hors de la crêle, gardez hors de la fornication et de l'esprit adultère, gardez hors des convoitises des yeux, des convoitises de la chair, et de l'orgueil de la vie, qui n'est pas du Père, afin que ce qui est du Père soit reçu et ait une entrée dans chaque vase. Ne vous élevez pas par une pensée vaine, et que la nature de Balaam soit mise à mort, lui qui s'égara loin de l'esprit et dressa des pierres d'achoppement, et ceux qui ne gardent pas leur première demeure dans la puissance de Dieu, et sa vérité deviennent des ennemis de ceux qui sont héritiers du royaume et de la puissance d'une vie sans fin. Ainsi donc, vous tous, amis et peuple, ayez égard à ce qui vous a d'abord convaincu, cette puissance de Dieu qui vous a d'abord réveillé, et levez-vous et vivez en elle, afin que tous vos yeux, vos pensées et vos cœurs soient gardés simples et nus devant Dieu et les uns envers les autres, et dépouillés de tout ce qui est contraire et qui s'est élevé depuis. Car la semence, la vie de Christ Jésus règne et gouverne, gloire à lui pour toujours. Je fus incapable d'écrire ou de recevoir des écrits pendant longtemps, ou de parler, ou de supporter qu'on me parle, mais j'ai été comme un homme enterré vivant, autrement je vous aurais écrit avant maintenant, et c'est pourquoi, ô chers amis, ne donnez aucun sujet de trébucher, gardez la tendresse, car la dureté de cœur est pire qu'une peste extérieure, car elle apporte la destruction de bien des manières. Ainsi n'attristez pas l'esprit chez les autres, ni en vous-même. Et suivez tout ce qui est convenable et bienséant, honnête et de bonne réputation, ce qui fait pour la paix, et non pour la crêle sous prétexte d'amour, car cela n'est pas de Dieu. Car Dieu, qui est amour, n'est pas l'auteur de la crêle et de la confusion, mais de la paix. George Fox ainsi, je désire que des copies de ceci soient envoyées en Virginie, au Maryland et en Nouvelle-Angleterre pour être lues parmi les amis dans toutes leurs réunions. Les choses vont assez bien ici, les amis étant dans l'amour et l'unité, et la crainte du Seigneur Dieu est parmi nous, lui qui règne et régnera. 245, une épître à lire dans toutes les assemblées des justes. Tous mes chers amis partout, vivez dans la noble semence, Christ Jésus le Sauveur est loin, le juste et le saint, afin que vos pensées, cœur, âme, esprit et corps soient justes, vivant dans la justice de Christ Jésus, en tout amour, vertu, vérité et sainteté, sans lesquelles nul ne peut voir Dieu. Car le Seigneur aime les justes, et les justes sont dans la paix, et la bouche de tous les ouvriers d'iniquité sera fermée. Le trône de l'iniquité doit être renversé, ainsi que la chambre des images dans chaque cœur, car le Seigneur doit avoir le cœur, car il doit être son offrande et son sacrifice. Toutes les lèvres doivent être pures, et les mains propres, qui confessent le Seigneur Jésus-Christ, et toutes les langues et les yeux simples devant Dieu et les uns envers les autres, et que tous s'occupent des affaires du Seigneur dans la vérité, et se livrent à lui, et en cela servent le Seigneur Dieu dans la nouveauté de vie, afin que tous vos pieds soient guidés dans la voie de la paix, et pour marcher droit devant le Seigneur dans sa voie, qui est Christ Jésus, la lumière qui est parfaite. Telle est la voie des justes, qui est une lumière éclatante, et dans cette voie le Dieu vivant prend plaisir en vous. Et vous qui vous enrichissez dans le monde de choses terrestres, vous qui avez eu autrefois en vous un élan au service de Dieu, Prenez garde de peur que vos pensées ne se jettent dans vos affaires extérieures, au sujet des choses extérieures, et que dans cela, vous ne vous éleviez au-dessus du bon et juste esprit, et n'abandonniez ainsi le service du Seigneur et ses affaires, en vous occupant des vôtres. Car les richesses extérieures, et les choses de ce monde, passeront avec les richesses extérieures qui s'y trouvent, car elles ont des ailes, mais la parole du Seigneur, qui vit et demeure et subsiste pour toujours, restera. Travaillez pour les richesses de celles-ci, car elles subsisteront avec vous, et cherchez le royaume de Dieu, qui n'aura jamais de fin, qui consiste en justice et en sainteté, en quoi vous avez joie et paix dans le Saint-Esprit. Alors toutes les choses extérieures suivront, car elles sont au-dessous. Si dans la justice, la sainteté et la vérité, comme des hommes justes et des hommes saints, et des hommes craignant Dieu, et comme des hommes justes, fils, serviteurs et enfants de Dieu, vous pouvez tous vivre en toute justice, sainteté, pureté, vérité, droiture et équité en toute manière de vie et de conduite, afin que votre conduite brille comme des lumières dans le monde, sachant que toute injustice, souillure, impiété, iniquité, mensonge et impureté ne sont pas de Dieu, mais sont hors du royaume de Dieu, et de même tous les trompeurs et escrocs qui sont. Vivez donc dans la vérité, dont le diable et ses œuvres sont exclus, et cette vérité vous rendra libre. C'est dans cette vérité et cet esprit que Dieu est adoré. Tous ceux qui font violence, les maudits parleurs et les jureurs, sont hors de la vérité et du commandement de Christ Jésus. Vivez donc dans l'amour de Dieu, en lequel vous pouvez être sensible à ses miséricordes. Dans cet amour, vivant dans la pure humilité, vous apprenez de Christ Jésus. Car la présomption s'apprend d'Adam dans la chute du serpent qu'il y a conduit, là où sont toute la souillure et l'impiété. Étant dans la prostitution loin de Dieu, où sont toutes sortes de prostitution et d'impureté, et la tromperie et la fausseté, le menteur, et tout péché, injustice et transgression. Et tout cela est compris comme étant dans la chute, avec le serpent qui les a conduits dans la chute, dont Christ vient écraser la tête, c'est-à-dire briser sa puissance et sa force, et le détruire, lui et ses œuvres. Et Christ est pur, le saint qui fait cela, le juste, le saint, et vivez en lui, le second Adam qui n'est jamais tombé. Alors vous viendrez à connaître un état qui ne tombera jamais, en celui qui est le premier et le dernier. Car Christ qui sanctifie est pur, lui qui sanctifie l'impur, celui qui n'est jamais tombé sanctifie et lave ceux qui sont dans la chute, celui qui n'a jamais transgressé rachète hors de la transgression, celui qui n'a jamais péché rachète hors du péché et y met fin, et celui qui n'a jamais offensé vient pardonner les offenses et les effacer. Et tous ceux qui en viennent à rendre témoignage de ce pardon par lui, eux qui ont été des transgresseurs contre Dieu, ne peuvent que pardonner aux hommes leurs offenses envers eux, à mesure qu'ils entrent dans le royaume de gloire et de vie, où le Seigneur a sa gloire. Oh, la gloire du Seigneur qui dure pour toujours. Et gloire, gloire soit à lui pour toujours, dont la gloire éternelle, la vie et la puissance brillent au-dessus de tout, et se répandent et se déploient sur tout. Oh, amis, que la justice coule parmi vous tous, vérité et équité, droiture et sainteté, ce qui convient à la maison de Dieu, et vivez dans l'ordre saint de la vie, de l'esprit et de la puissance du Dieu éternel. Demeurez dans la foi qui agit par l'amour, qui purifie vos cœurs, dont le mystère est gardé dans une conscience pure. Cette foi vous donne accès à Dieu et vous donne la victoire sur ce qui sépare de Dieu. C'est par elle que vous domptez les montagnes, que vous éteignez les traits enflammés de Satan et que vous le surmontez, et en elle vous avez toute l'unité pure, et vous édifiez et bâtissez, dans la sainte foi, le don de Dieu, et c'est cela pourquoi il faut combattre la même chose qui a été une fois transmise aux saints.
Oh.
Vivez dans la pure espérance, qui vous purifie comme il est pur, cette espérance est Christ, qui était avant que l'espérance de l'hypocrite fût, et qui tous deux lui et son espérance, sont impurs. Sentez donc Christ votre espérance qui ancre vos âmes immortelles, qui les maintient au milieu de toutes les vagues, les orages et les tempêtes, et qui est sûr et certain par tous les temps, Christ, qui est le même aujourd'hui qu'il était hier, donc rien de nouveau. Car il est le rocher des siècles, qui était avant les siècles, il est la pierre angulaire, et aussi le premier et le dernier, qui broiera et mettra en pièces tous les esprits étourdis, errants et mal affermis, et confondra ceux qui sont rusés, et qui chassent devant courent avant le Seigneur, car ceux qui chassent devant lui n'auront pas le Seigneur pour guide, lui qui est le même aujourd'hui qu'il était hier, et ainsi pour toujours. Car Adam et Ève ne demeurèrent pas dans leur possession, ni Caïn, ni Corée, ni Balaam, voyez ce qui leur arriva, et quelle fut leur fin. Et de même, les Juifs ne demeurèrent pas dans la possession de la loi de Dieu, qui était juste et sainte. Et aussi les chrétiens apostats se sont éloignés de Christ et ne sont pas demeurés en lui, lui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi ils sont entrés dans tant de voies différentes, et recherchent tant de voies nouvelles, et se jettent dans tant de fables, comme si Christ, auquel on obéit un jour, ne devait pas être obéi le lendemain. Et c'est Caïn désobéissant, errant au pays de Nod, frappant Abel, qui lui obéit, lui qui est le même aujourd'hui qu'il était hier, et ainsi pour toujours, oui, l'agneau immolé dès la fondation du monde, qui règne sur cette nature qu'il a immolée, et régnera jusqu'à ce qu'il ait tout mis sous ses pieds. Ainsi donc, amis, vivez en Christ et marchez en lui. Écoutez-le, obéissez-lui et suivez-le, lui qui est le même aujourd'hui qu'il était hier, et ainsi pour toujours. Ainsi vous, qui êtes les vrais croyants, qui êtes passés de la mort, et du péché qui l'a produite, et du diable qui en est l'auteur, vous êtes venus à la vie de Christ Jésus, le même aujourd'hui qu'il était hier, si votre foi demeure en celui qui est le premier et le dernier, le même aujourd'hui, hier et pour toujours. Et c'est là le croyant né de Dieu, la naissance immortelle, et cette naissance est celle qui vainque le monde, qui ne pèche pas, que Dieu garde parce qu'il est né de Dieu, et que la semence de Dieu demeure en lui, et par là les enfants de Dieu et les vrais croyants sont manifestés, distincts des faux croyants et des enfants du diable. Celui qui pratique la justice est de Dieu, celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ainsi, vous qui sentez la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus avoir abattu en vous la loi du péché et de la mort, cette autorité de l'abattre, laissez-vous régler par la loi de l'esprit de vie qui est en Christ Jésus, qui vous affranchit de la loi du péché et de la mort. Ainsi, dans cette loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, vous avez communion, ordre, règle et gouvernement dans la loi de vie, et dans la loi de paix qui donne la victoire, dont Christ Jésus est l'auteur, lui qui vous renouvelle dans la justice et la sainteté à l'image de Dieu, hors de l'injustice et de l'impiété, et de l'image de Satan. Ici le Seigneur a la gloire, et Christ, votre Saint Rédempteur et Sauveur, est confessé à la gloire de Dieu. Attendez donc afin que vous vous asseyiez tous en Christ, qui est le premier et le dernier, et l'image de Dieu, et la sagesse de Dieu, afin que par sa sagesse qui est pure, juste et sainte, vous en veniez à ordonner toutes choses à la gloire de Dieu. Adam est tombé de l'état où Dieu l'avait placé, et dans la chute, les fils et les filles d'Adam se tournent d'eux-mêmes de voix en voix. Mais pour que l'homme et la femme sortent de toutes les voies nationales corrompues, des religions, des églises, des cultes, des communions et des enseignants, pour revenir à l'état où Adam et Ève étaient avant de tomber, et pas plus loin, c'est un état où l'on peut tomber de nouveau. Mais venir à Christ, qui était avant que le monde fût, qui est le premier et le dernier, commencement et fin, c'est en demeurant en lui qu'on connaîtra un état qui ne tombera jamais. Car l'état d'Adam avant sa chute était au-dessus de tous les sages et savants terrestres et mondains, et de leurs entendements obscurs et de leurs voix perverses où leur esprit pervers les conduit, là se trouvent toutes sortes d'impuretés, d'injustices, de fausseté, d'enflure et d'orgueil, et tous les chemins tortueux, rudes et contraires, ainsi que les montagnes de péché, qui sont devenues comme des tombeaux et des prisons pour les justes. L'état d'Adam avant sa chute est au-delà de tout cela, lui qui est tombé dans tout cela, mais Christ, qui n'est jamais tombé, est un état au-delà d'Adam, et c'est celui qui n'est jamais tombé qu'il faut écouter et suivre, et c'est en lui que les gens doivent s'asseoir, lui qui est le repos, la paix et la vie, lui qui détruit le diable et ses œuvres, met fin au péché, ainsi qu'à l'impiété et à l'injustice qui ont déshonoré Dieu. Ainsi il meurtrit la tête du serpent, brise sa puissance et l'écrase en pièces, afin que la semence Christ se lève en tout. Maintenant, cela étant manifesté et connu en tout, alors l'agneau est connu comme ayant la victoire, lui qui a été immolé dès la fondation du monde, et alors, dans la semence, vous venez à connaître votre élection avant que le monde commençât. Et ici la parole du Seigneur s'accomplit, sa gloire, il ne la donnera pas à un autre, lui qui détruit ce qui s'était approprié la gloire, ce qui fait lever en l'homme cette noble semence et plante qui rend la gloire à Dieu. Et ici, tandis que vous vivez dans la semence Christ Jésus, vous connaissez votre élection avant que le monde commençât, et la réprobation depuis que le monde commença. Car Corée, Caïn, Ismaël, Ésaü, Sodome et l'Égypte spirituelle et temporelle existent depuis que le monde a commencé. Car l'Égypte, c'est l'esclavage, la servitude, l'angoisse et les ténèbres, et Sodome, c'est la débauche, et Caïn désobéit à la voix de Dieu, et Corée contredit se rebella contre la loi, et quiconque sent en lui cette nature, ce sont des vases de colère, qu'il ne se plaignit donc pas en disant « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Car il y a des vases d'honneur et des vases de déshonneur, des vases de miséricorde et des vases de colère. Et cela ne vient pas de celui qui veut et qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Or Ésaü, la première naissance, signifie un homme d'œuvre. Jacob, la seconde naissance, signifie un supplantateur. Et quand Jacob a supplanté Ésaü, la première naissance, la nature profane, Jacob est appelé Israël, c'est-à-dire, tu as maintenant du pouvoir auprès de Dieu. Ainsi, là où l'élection s'est levée et a abattu Caïn, Corée, l'Égypte, Sodome, la première naissance mise à mort, qui avait fait entrer toute la colère dans le vase, et l'ancienne outre brisée, voici une outre nouvelle qui contient le vin nouveau, et des vases d'honneur et des vases de miséricorde, dans l'élection d'avant le commencement du monde. Et vous avez toutes choses rendues nouvelles, un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et vous tous, amis, qui êtes d'une manière ou d'une autre dans des souffrances, des emprisonnements ou des bannissements pour Christ et pour la vérité, vivez en Christ et asseyez-vous en lui. En qui vous avez toute paix, vie, vertu et repos en Christ Jésus, qui était avant tout ce qui fait souffrir, et qui demeurera quand tout cela aura disparu, et qui était le premier et le dernier, le commencement et la fin, le même aujourd'hui, hier et pour toujours. En lui asseyez-vous et vivez, lui qui ne change pas, alors votre religion ne change pas, votre culte ne change pas, votre voix ne change pas, car Christ est votre voix, lui qui est le même aujourd'hui, hier et pour toujours, et votre communion, et votre unité, et votre communauté ne change pas, étant avec le Père, qui ne change pas, mais qui est le même d'éternité en éternité. Et ceux dont la religion, la communion et le culte changent, et qui vont çà et là, et changent de voix, sont inconstants, et ont des oreilles qui démangent après des voix qui s'éloignent de Christ, lui qui ne change pas, lui qui est la voix, le même aujourd'hui qu'il était hier, dans laquelle il faut marcher. Et vous tous, amis, qui êtes dans des tentations ou des troubles, regardez à Christ, qui meurtrit la tête du serpent, votre adversaire, votre ennemi, votre troubleur, votre tentateur, votre souilleur, votre accusateur, le méchant. Ne le craignez pas, mais regardez à Christ Jésus, qui lui meurtrit la tête, brise sa puissance et sa force, et l'écrase en pièces. En Christ, vous avez la paix, lui qui était avant que le diable fût. Règne en lui, Christ Jésus, qui est votre lumière, votre vie et votre salut, et craignez Dieu, et donnez-lui gloire, gloire à lui pour toujours. Car ce serpent, l'ennemi, l'adversaire, le diable, le méchant, le dragon, l'accusateur, le tentateur, tenta Christ par les créatures, par la gloire du monde, et en lui demandant de l'adorer, afin de le détruire. Mais Christ lui meurtrit la tête, brise sa puissance et sa force, l'écrase en pièces et le détruit, lui et ses œuvres. Ainsi vivez en lui et réjouissez-vous, lui en qui vous avez paix, vie et domination, en lui qui était avant que le serpent fût, le premier et le dernier, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ah, mes chers amis et frères partout! La puissance du Seigneur Dieu est au-dessus de tout. Vivez en elle, afin que vous puissiez sentir une unité et une communion dans la puissance du Seigneur Dieu, afin que par cette puissance du Seigneur Dieu, vous veniez tous à être héritiers de la puissance d'une vie sans fin, par laquelle vous pouvez hériter l'éternité, et ainsi sentir la vie éternelle demeurer en vous. Le meurtrier n'a pas la vie éternelle demeurant en lui, c'est-à-dire celui qui envie son frère. Ainsi tous les persécuteurs qui envient leur frère n'ont pas la vie éternelle demeurant en eux. Sous ce terme sont compris tous les persécuteurs au sujet d'église, de religion, de culte, de foi, de ministère et de communion, ainsi que les personnes envieuses, n'ayant pas la vie éternelle demeurant en elles. Ainsi donc sentez tous cette vie éternelle demeurant en vous. Et celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle demeurant en lui. Et ainsi, dans cette vie éternelle, vous avez une communion éternelle avec Dieu et son Fils, et les uns avec les autres. Et en cela, la loi de vie, qui est en Jésus-Christ, prononce sentence contre la loi du péché et de la mort en tout homme et toute femme, et la conduit à l'exécution. Par cette loi de vie, la justice coule et descend comme un ruisseau, et aussi le droit et la vérité. Ici, par cette loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, notez, en Christ Jésus, vous venez à connaître le trône de l'agneau, et le trône d'iniquité renversé, sa bouche fermée, et les chambres d'images renversées, et la maison de Dieu relevée, les arbres stériles abattus, et la plante de Dieu relevée qui est de sa propre plantation, un arbre de justice dont le fruit est pour la sainteté, dont la fin est la vie éternelle. Remarquez donc ici les fruits de cet arbre, et la fin de cet arbre. Par là, vous distinguez la plantation de l'homme et l'arrachage de l'homme, et vous distinguerez la construction de Dieu de la construction de l'homme, et l'abattage de l'homme, et le rassemblement de l'homme, vous qui êtes rassemblés au nom de Jésus, distinguez cela, et sa dispersion. Oh, soyez donc vaillants pour la vérité, dont vous êtes venus à la connaissance, et adorez Dieu dans cette vérité dont le diable est sorti, et dans laquelle il n'est pas demeuré, cela vous rend libre du diable et de ses œuvres, qui sont hors de la vérité. Ici, dans ce culte, dans la vérité et dans l'esprit, le Dieu vivant, qui est esprit, le Dieu de toute vérité, reçoit sa gloire et son honneur de l'Esprit du Seigneur dans chaque cœur. Ainsi demeurez dans l'Esprit, la vérité et la puissance du Dieu éternel, qui est d'éternité en éternité, afin que vous le connaissiez Seigneur de la terre et du ciel des cieux gouvernant et régnant, dont l'œil est sur toutes ses œuvres, afin que vous le glorifiez dans sa puissance et son esprit, et le serviez dans la vie nouvelle, laquelle vous gardera au-dessus de toutes les fables et inventions des hommes, de leurs lubies et imaginations, hors de toutes les discussions et vaines disputes d'hommes à l'esprit corrompu. Ainsi il est bon pour vous tous de vivre en celui qui est le même aujourd'hui qu'il était hier, Christ Jésus, la puissance de Dieu et la semence de vie, et la parole qui était au commencement, donc rien de nouveau, mais ce qui était et ce qui est pour toute l'éternité, que votre communion soit en cela, et votre unité et participation soient en cela, car cela est vu par l'œil éternel, l'unité éternelle et le Dieu éternel. Ainsi que chacun de vous entende sa voix qui parle du ciel, dont la voix ébranle la terre, et non seulement la terre, mais aussi les cieux. Le ciel signifie la joie, ainsi toutes les fausses joies, les joies exaltées ou élevées, les joies de vaine gloire et les joies du monde, de quelque chose d'extérieur ou d'une créature, d'homme ou de femme, sa voix qui parle du ciel ébranle la terre et les cieux, et ceux-ci doivent être ébranlés et ôtés, les cieux et la terre, avant qu'apparaisse ce qui ne peut jamais être ébranlé, la noble semence royale, élue et précieuse, avant que le monde commençât. Étant héritier de lui, venez à l'hériter, en lui, vous connaîtrez ce qui ne peut être ébranlé, Et c'est là la vraie joie, en celui qui est d'éternité en éternité, qui est le commencement et la fin. Ici, nul n'est ni élevé, ni abattu jusqu'au désespoir. Ainsi je dis, écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car ne pas écouter la voix, c'est endurcir vos cœurs, et alors vous provoquez Dieu à la colère et à un vif déplaisir. Celui qui parle du ciel est votre oreille, afin que vous veniez à observer son conseil, son enseignement, son instruction et sa direction. Car tous les prophètes et saints hommes de Dieu, et les apôtres, furent attentifs et obéissants à cette voix céleste, rendant témoignage à la vérité, ayant aussi un témoin au ciel. Et ceux-là annoncèrent la vérité glorieuse qu'ils tenaient des instructions du Tout-Puissant, comme vous pouvez le lire dans les Écritures. Quelles expressions glorieuses et quelle vérité de poids ils proclamèrent, dont les oreilles. Ainsi, si le terrestre, et le péché et le mal ont l'oreille, ils la rempliront de ce qui est mauvais, et endurciront le cœur, et étoufferont le bien. C'est pourquoi le Seigneur doit avoir l'oreille, lui qui est le gouverneur du ciel et de la terre. Et à mesure que vos oreilles sont attentives à la voix du Seigneur qui parle du ciel, la bouche de l'iniquité est fermée en vous, le trône de l'iniquité est renversé en vous, c'est-à-dire l'esprit et la puissance du méchant, où l'iniquité siège, et les chambres d'images sont renversées en vous, où sont toutes les pensées et imaginations. Lorsque l'oreille est attentive à la voix de celui qui parle du ciel, vous viendrez au trône de l'agneau, qui a la puissance, qui a la victoire et la domination, afin que tous y vivent dans la puissance éternelle de Dieu, qui passe au-dessus de toute tromperie, qui était avant que la tromperie et les ténèbres fussent, et sentez toujours une croissance dans la puissance du Seigneur Dieu, qui est universelle et éternelle, afin que vous soyez tous héritiers de la puissance d'une vie sans fin, et que vous veniez à l'hériter, à la posséder, et à vous asseoir dans la. Oh la gloire du Seigneur, qui s'étend sur tous, et ici vous avez son parfum, et vous pouvez goûter votre nourriture dans la puissance du Seigneur Dieu, vous nourrissant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ayant l'oreille de chacun attentive à sa voix, en cela vous grandissez dans la vie qui est éternelle. George Fox 246 aux chers amis. Que chacun veille à demeurer dans la puissance du Seigneur Dieu, qui vous a d'abord convaincu, et gardez-y votre possession, dans le sentiment de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers vos âmes, car votre unité et votre communion résidant dans la puissance, la vérité et la vie sans tache du Dieu éternel de vie et de puissance, et les sources de vie vous seront ouvertes en cela, par lesquelles vous pourrez être chaque jour rafraîchis jusqu'au Dieu de vie. Soyez délicats envers la vérité et la vie sans tache, par lesquelles vous pourrez en venir et y répondre en tous les amis, afin qu'ils aient l'unité avec vous dans la même vie et la même puissance, par lesquelles vous pourrez être un bon parfum pour Dieu, et une bénédiction pour lui dans vos générations, servant le Seigneur Dieu dans la nouveauté de la vie, comme une époux et une fiancée chaste envers lui, encore âme et esprit estimant vos corps, qui sont pour le Seigneur et doivent être son temple, non pour l'adultère ou la fornication. Oh, veillez donc et demeurez dans la vie sainte, et sentez en vous la puissance et l'esprit du Tout-Puissant qui meuvent et conseillent, vous dirigeant dans les voies de vérité et de justice, de paix et de sainteté, sans lesquelles nul ne verra Dieu. Vivez dans la vie paisible, et aimez-la, ayez l'œil à ce qui conduit à la paix, car Dieu est l'auteur de la paix, et non de la confusion. Ainsi vivez tous dans la précieuse vérité de Dieu, la sentant à l'œuvre, par laquelle l'unité et la vie paisible pourront être préservées parmi vous dans la justice et la paix, car les guerres, les crêles, les troubles et les combats viennent d'actions injustes, qui sont au-dessous de la vérité et de la justice, car la vérité conduit à une vie modeste, décente et convenable, honorable et estimable devant Dieu et dans le cœur de tout son peuple. Vivez donc dans la vérité et sa puissance, afin que vous veniez tous à être héritiers de la puissance d'une vie sans fin, et à hériter et posséder la vie sans fin, la puissance d'un monde qui n'a pas de fin. Gardez donc vos yeux sur vos possessions spirituelles et sur la vie qui n'a pas de fin, et en cela vous croîtrez dans la vérité, dans la justice et la sainteté, et dans la puissance et la vertu de la vie sainte, et ainsi asseyez-vous dans vos possessions afin que vous serviez tous le Seigneur d'un esprit, d'une âme et d'un cœur pur, et que nul ne souille vos corps, mais que vous les estimiez comme des vases d'honneur, des vases préparés pour recevoir les trésors du Seigneur. George Fox, Londres, le 16 du 9 mois, 1666. 247 chers amis, demeurez dans la douce sagesse du Seigneur Dieu, qui se laisse aisément fléchir, et ne laissez pas l'entêtement, la précipitation et l'impatience exposer votre nudité au monde, mais demeurez dans la puissance, la semence et la vie de Christ Jésus, la sagesse de Dieu afin que par cela vous soyez tous gardés revêtus de patience, et dans l'amour du Seigneur Dieu, et dans la lumière, en laquelle est l'unité les uns avec les autres, et avec Dieu. Demeurez dans une pensée et un esprit paisible, car celui qui souffre avec patience porte la couronne et obtient la victoire à la fin, et non l'esprit hâtif, aggravant, vindicatif, meurtrier et combatif, lequel doit être écrasé par la semence du Seigneur Dieu, qui meurtrit la tête du serpent, cause d'inimitié, de venin et de poison, et lorsque cette tête est meurtrie par la semence et la vie, alors on ne se nourrit plus que de vie et de gloire. Et en cela est la paix. George Fox 248, une exhortation à établir des réunions de femmes. Amis, maintenez vos réunions dans la puissance du Seigneur Dieu qui vous a rassemblés, que nul n'éteigne l'esprit ni ne méprise la prophétie, mais que vous souteniez votre témoignage en public et en privé. Ne laissez pas bâillonner la bouche des petits-enfants et des nourrissons, ni la semence dans l'homme ou dans la femme, mais que tous soient vaillants pour la vérité du Seigneur sur la terre. Concernant les réunions de femmes, encouragez toutes les femmes de famille, qui sont convaincues, qui ont souci de la vertu, aiment la vérité et y marchent, afin qu'elles s'élèvent au service de Dieu, qu'elles soient utiles à leur génération et dans la création, et qu'elles en viennent à la pratique de la pure religion que vous avez reçue de Dieu, d'en haut afin que chacun en vienne à connaître son devoir en elle, et son service dans la puissance et la sagesse de Dieu. Car maintenant la partie pratique est requise, car les gens ne doivent pas toujours parler et entendre, mais ils doivent venir à l'obéissance au grand Dieu du ciel et de la terre, afin que nul ne reste oisif hors de la vigne, hors du service et hors de son devoir, car ceux-là bavarderont et cancaneront, et jugeront avec de mauvaises pensées ce que disent et font ceux qui sont dans la vigne. Et c'est pourquoi la puissance du Seigneur Dieu appelle tous à leur devoir, à leur service, à leur place, dans la vertu et la justice, et à la sagesse et à la puissance de Dieu. Car tous ceux qui sont hors de cela sont hors de leur devoir et de leur service, même s'ils en ont la connaissance, ils ne sont pourtant pas utiles dans la création ni dans leur génération. Et la puissance de Dieu doit passer sur, et est sur, tout cela, en laquelle tous doivent être agis, et en laquelle l'obéissance véritable est connue. Ainsi donc, formez vos jeunes femmes à connaître leur devoir en cette chose, afin qu'elles soient dans leur service et à leur place, car vous devez traiter toutes les affaires de la vérité dans la puissance et la sagesse de Dieu, par lesquelles vous demeurez ouverts au Seigneur, pour recevoir de ses dons et de ses grâces, et de sa vie, par lesquelles vous devez vous servir les uns les autres. Et si tous demeurent en cela, alors nul n'est là pour empêcher ni arrêter son écoulement, mais par elle vous êtes tous arrosés, comme un jardin de plantes par laquelle vous êtes nourris. Ainsi, que tous soient fidèles et diligents, et faites connaître cette chose à toutes les femmes sérieuses, de la ville comme de la campagne. Et lisez ceci dans vos réunions mensuelles, lorsque vous êtes assemblées, et quand vous aurez mis au courant les femmes sérieuses, dans les villes et les campagnes, et que vous les aurez ensemble, alors lisez ceci parmi elles, ainsi rien de plus. George Fox 249, une épître générale aux amis, et à tout le peuple, à lire et à considérer dans la crainte de Dieu. Heureux tous ceux dont l'esprit est appuyé sur le Seigneur, car ils seront gardés dans une paix parfaite. Ainsi, là où l'esprit est appuyé sur le Seigneur, il y a une paix parfaite, car c'est une paix entière, qui ne peut être brisée. Ainsi voici non seulement une paix parfaite, mais une bénédiction, une paix parfaite qui vient du Dieu de toute paix, qui meurtrit sous vos pieds la tête du serpent, le troubleur, et les bénédictions qui viennent du Dieu béni. Ainsi toute paix imparfaite peut être brisée, c'est lorsque l'esprit est appuyé sur la créature, ou dans quelque créature, et non sur le Créateur, ou sur des choses extérieures, bien, maison, terre ou invention de vanité, dans les sottes modes vaines, ou entre la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, qui la souilleront et la corrompront. Quand l'une de ces choses manque, et n'est pas selon votre pensée, votre esprit étant en elle, alors votre paix est brisée, et vous devenez contrarié et cassant, et l'envie se lève. Ce n'est donc pas une paix parfaite, mais une paix brisée, et alors vous avez le trouble et non la bénédiction. Et la raison en est que vos esprits sont dans les créatures et les choses extérieures, et ne sont pas appuyés sur le Créateur, où est la paix parfaite et la bénédiction, où rien ne peut s'interposer entre vous et le Seigneur. Et cela est au-dessous de Job que d'avoir l'esprit dans les créatures et les choses visibles, car lorsque vous êtes éprouvés et que les créatures vous font défaut, vous êtes contrariés et troublés, cela montre un état imparfait, car Dieu dit que Job était un homme parfait. Et lorsque le Seigneur permit qu'il fût éprouvé, et lorsque ses biens et ses maisons furent abattus et emportés, et ses serviteurs tués, il dit, « Béni soit le nom du Seigneur, car le Seigneur a donné, et le Seigneur a ôté. » Ici son esprit était appuyé sur le Seigneur, et il conserva sa paix. Et lorsque ses enfants furent détruits, et que sa femme lui dit, « Quoi, tu demeures encore intègre, maudit Dieu et meurs », il la reprit et l'appela femme insensée, et lui dit, « Recevrai-je le bien de la part du Seigneur, et ne recevrai-je pas le mal, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. » Ici Job garda encore son intégrité, et durant tout ce temps il ne pécha point par ses lèvres. Or beaucoup d'entre vous, qui vous croyez élevés et au-dessus de Job, si vos biens et vos enfants vous étaient enlevés de la même manière, vous dont l'esprit est en eux, vous seriez trouvés dans un état troublé et cassant, bien au-dessous de Job. Et lorsque les amis de Job vinrent raisonner avec lui, lui qui gardait son intégrité et ne leur céda en aucune manière, ils le tinrent pour hypocrite et dirent qu'il retenait la prière, et remplissait son ventre du vent d'Orient, et dirent, « Quoi, l'homme mortel serait-il plus pur que son Créateur ? L'homme né de femme serait-il juste ? Dieu chargea ses anges de folie, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Et ce sont ces écritures que les prêtres utilisent contre les amis, qui gardent leur intégrité, comme les amis de Job le firent contre lui. » Mais à la fin, Le Seigneur commanda à Job d'offrir un sacrifice pour ses amis, parce qu'ils avaient péché et n'avaient pas parlé correctement, comme Job, qui était parfait et gardait son intégrité. Et l'apôtre dit aux saints qu'il avait appris, en toutes circonstances, à être content. Remarquez, en toutes circonstances, mais c'était lorsqu'il était Paul, non lorsqu'il était Saül, courant de ci de là avec son paquet de lettres, traînant les saints devant les magistrats comme un prêteur, alors il n'était content ni de sa propre condition ni de celle des autres, mais lorsqu'il vint à apprendre Christ, qui détruit le diable et ses œuvres, qui en sait à connaître toutes choses, alors il apprit, en toutes choses, à être content. Ainsi vous savez qu'il y a apprendre et avoir appris, comme un enfant lorsqu'il apprend, puis devient instruit, témoin de deux états. Ainsi Paul avait appris, en toutes conditions, à être content, et qui fut son maître d'école, sinon Christ, par qui toutes choses ont été faites, non de l'homme ni par l'homme hors de la vérité. Ainsi, tant qu'il apprenait des hommes et par des hommes, il n'était pas content, et aucun autre ne l'est non plus. Ainsi tous doivent apprendre de Christ la lumière, la vie et la vérité, afin que vous veniez à cet état, avoir appris, en toutes conditions, à être content, et ne pas mettre votre confiance dans des richesses incertaines, car elles ont des ailes et s'envoleront. Ainsi, on ne tient jamais pour sage celui qui met sa confiance dans ce qui s'enfuira loin de lui, car ce sont les héritiers de la terre et du monde, ceux qui se chargent d'une épaisse argile, afin de placer leur nid en haut, mais ceux qui sont cohéritiers avec Christ et de la puissance d'une vie sans fin se confient dans le Dieu vivant, et viennent à posséder un héritage éternel de la puissance d'une vie sans fin, et viennent à croître dans les richesses de l'héritage éternel, et y amassent des richesses impérissables, qui demeureront pour toujours. Et que chacun veille à la parole de Dieu dans vos cœurs et dans vos bouches, et obéissez-lui et mettez-la en pratique, et ne soyez pas de ceux qui disent dans leur cœur, qui montera ou descendra pour le faire venir d'en haut de l'abîme. Abaissez celui qui parle ainsi sous la réprimande, et alors votre oreille sera ouverte à ce que dit la justice de la foi, la parole est près de vous, dans votre cœur et dans votre bouche, ainsi vous n'avez pas besoin de dire, qui montera ou descendra, et c'était cette parole que les messagers de Dieu ont prêchée et prêchent, et elle reprend l'opposant. Et ainsi vous tous, puisque le diable a fait du monde un désert, et qu'il y a tant de voies en lui qu'on ne sait laquelle prendre pour en sortir, ni laquelle suivre, voici donc ma réponse à tous, prenez la lampe et la lumière de David. Vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est, et où est-ce, je dis, elle est avec vous la parole de Dieu. Vous pouvez dire, on ne porte pas de lampe le jour mais la nuit. Je dis, vous êtes dans la nuit des ténèbres, et c'est pourquoi la parole est appelée une lampe et une lumière pour vous, par laquelle vous pouvez voir la voix du Seigneur, qui est parfaite, distincte de toutes les voix des hommes, qui sont imparfaites, par laquelle vous pouvez voir que le sentier des justes est une lumière brillante, distinct de tous les sentiers injustes qui sont dans les ténèbres. Car par cette parole David vint à devancer ses maîtres, et fut rendu plus sage que tous, ainsi sera-t-il pour vous, si vous lui obéissez, car par cette parole il vit Christ et l'appela Seigneur. C'est pourquoi il aima la parole et la cacha dans son cœur, et par elle il prononça tant d'expressions glorieuses, que le monde ensuite a mis en vers et en a fait des chants. Et c'était cette parole qui vint à Abraham, qui le fit abandonner sa religion et son culte nationaux, et obéir au Seigneur. Et c'était cette parole qui vint à Jacob, le berger, par laquelle il vit Christ et prophétisa de lui à ses fils sur son lit de mort, lorsqu'il dit à Judas que le sceptre ne s'éloignerait pas de Judas, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne, c'est-à-dire Christ, et que le rassemblement de toutes les nations serait à lui, comme c'est le cas aujourd'hui, le rassemblement est à Christ. Et c'était cette parole qui vint à Moïse, le berger, lorsqu'il gardait les brebis, il lui obéit, alla en Égypte et en fit sortir les enfants d'Israël, par cette parole il fut fait ministre, et lorsque les enfants d'Israël furent sortis d'Égypte dans le désert, il leur dit qu'ils n'avaient pas besoin d'aller chercher la parole au-delà des mers, etc. Car elle était près d'eux, dans leurs cœurs et dans leurs bouches, pour lui obéir et la faire. Et c'était cette parole qui fit de Moïse un prophète, qui prophétisa de Christ, et dit, « Dieu suscitera un prophète comme lui, c'est lui qu'ils écouteront en toutes choses. » Remarquez, en toutes choses, nous devons être réglés intérieurement et extérieurement par l'écoute de Christ, par qui toutes choses ont été faites. Et quiconque n'écouterait pas ce prophète Christ serait retranché, car comment pourraient-ils subsister ou régner, eux qui ne veulent pas écouter Christ? Et c'était cette parole qui vint à Samuel et fit de lui un prophète, qui parla à Élie le prêtre, reprit ses fils et les enfants d'Israël. Et c'était cette parole qui fit prophétiser Saül et Balaam, bien qu'ils s'en soient écartés. Et c'était cette parole qui fit prophétiser tous les prophètes et reprendre les rois d'Israël, ainsi que leurs prêtres, pour leurs superstitions et leurs voies idolâtres, en dressant des bosquets et des images dans les hauts lieux. Et elle reprit toutes leurs prognostications mensuelles, eux qui parlaient et agissaient d'après elles, et non d'après le Seigneur. Et c'était cette parole qui vint à Ésaïe, par laquelle il prophétisa de Christ, de sa prédication et de ses souffrances, et par laquelle il reprit les bergers, qui étaient comme des chiens muets et voraces, qui n'en ont jamais. Et par cette parole il vit que tous les enfants de Dieu seraient instruits par Dieu et établis dans la justice et la paix, Et bien que beaucoup de langues s'élèveraient en jugement contre eux, ceux qui seraient instruits de Dieu les condamneraient toutes, une telle puissance serait donnée à ses enfants. Et les nombreuses armes formées contre eux ne prospéraient pas, Dieu les retiendrait. Il vit aussi ceux qui étaient chassés, qui tremblaient à la parole de Dieu, à ceux-là Dieu apparaîtrait pour leur gloire, et pour la honte et la confusion de ceux qui les chassent à cause de son nom, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'était cette parole de Dieu qui fit de Jérémie un prophète, par laquelle il vit la nouvelle alliance, par laquelle il fut envoyé pour reprendre le peuple et les princes au sujet de la chose immonde et horrible commise dans le pays, que les prêtres prêchaient pour salaire et que les prophètes prophétisaient faussement. Et pour les avoir repris de leur superstition et de leur idolâtrie, ils le frappèrent, le mirent aux ceps et en prison, et le persécutèrent dans la citerne, jusqu'à ce que ses persécuteurs fussent emmenés en captivité. Et par la parole, Jérémie vit le nombre de 70 ans de captivité à Babylone pour ses persécuteurs. Élie, par cette parole, fut fait prophète, et par la parole reprit Achab et Jézabel pour leur idolâtrie et leur culte des images. À cause de cette parole, ils le persécutèrent, lui et le reste des prophètes, et ne fut-il pas nourri par des corbeaux au bord du fleuve? Et ne cherchèrent-ils pas à lui ôter la vie? Et ne pensa-t-il pas que tous les prophètes du Seigneur avaient été tués, et qu'il était resté seul? Et pourtant le Seigneur ne lui dit-il pas qu'il s'était réservé 7 000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal? Et Élisée, le laboureur, par cette parole, fut fait prophète et abandonna sa charrue, et par la parole il reprit l'idolâtrie de son temps, chez les prêtres comme chez le peuple. Et par cette parole Ézéchiel fut fait prophète, par laquelle il reprit les bergers d'Israël, qui faisaient une proie du peuple et l'enseignaient pour la toison l'argent. Et par la parole il vit que Dieu retirait le peuple de dessous eux, afin qu'il ne soit plus une proie, et qu'il les arracherait de leur bouche et établirait sur eux un seul berger, à savoir Christ, dont le témoignage est rendu. Et par la parole il reprit les faux prophètes, qui enseignaient pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, enduisaient de mortier mal lié, et cousaient des coussins sous les aisselles. Et par la parole il vit le modèle du temple, et le retour des Juifs. Et par cette parole Daniel fut fait prophète, et vit Christ et son royaume, et comment les saints prendraient son royaume, et par la parole il vit ceux qui se lèveraient contre le peuple de Dieu. Et par la parole il dénombra les années jusqu'à Christ en son temps, 499 ans, et sa mort, et comment il mettrait fin au sacrifice, et comment Christ ferait monter la justice éternelle, mettrait fin au péché, mettrait un terme à leurs prophètes, et scellerait leur vision. Et par la parole Michée fut fait prophète, et cria contre les prêtres qui prêchaient pour salaire, et les prophètes qui prophétisaient pour de l'argent, et les juges qui jugeaient pour des récompenses, et ceux qui prêchaient la paix au peuple qui mettaient de la nourriture dans leur bouche, comme les prêtres de ces temps, et lorsque le peuple ne le faisait pas, ils préparaient la guerre contre eux, hachaient leur chair et brisaient leurs os. Mais Michée vit, par la parole que le soleil s'était couché sur de tels prophètes et prêtres, et qu'ils n'auraient ni vision ni réponse de Dieu. Ainsi, pour ceux qui sont contre les révélations et les visions, sur eux le soleil s'est couché, il a décliné, et la nuit vient sur eux. Et par la parole, Amo, le bouvier, fut fait prophète, lui qui était aussi ramasseur de fruits, et de même tous les autres prophètes, qui annoncèrent des choses divines et reprirent la superstition et l'idolâtrie de leur temps et de leur jour. Et par la parole, les prophètes annoncèrent des choses divines, paroles qui les fit entrer dans la nature et la pensée divine, parole qui martela et abattit ce qui corrompait leur nature. Et c'était cette parole qui fit de tant de pécheurs des prédicateurs de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu. Et c'était cette parole qui fit de Matthieu le publicain, de Luc le médecin et de Paul le fabricant de tentes, des ministres et des prédicateurs de l'Évangile et de la puissance de Dieu. Et c'était cette parole qui fit voir à Pierre la prophétie de Joël, comment Dieu répandrait son esprit sur toute chair, et que les filles et les filles prophétiseraient, que les jeunes gens verraient des visions, et que les vieillards auraient des songes, et l'effusion de l'esprit sur les serviteurs et les servantes, afin que chacun ait quelque chose à dire pour la gloire de Dieu. Et maintenant, prêtres, prélats orgueilleux, évêques et papes, bien que vous ayez fait commerce des paroles des saints, des apôtres et des prophètes, et que vous en ayez tiré beaucoup d'argent alors que c'était des paroles de pêcheurs et de bergers, venues de la parole, néanmoins, si une troupe de bergers, de bouviers, de pêcheurs, de fabricants de tentes et de publicains venait parmi vous prêcher, vous diriez, dehors ces artisans, ils n'ont pas fait 7 ans d'apprentissage dans les collèges, établis pour faire des ministres, donc ils ne doivent pas se lever, puisqu'ils. Que disent les bergers, les bouviers, les pêcheurs, les fabricants de tentes, les médecins et les percepteurs de péage? Faites-vous commerce des paroles de nos amis, qui étaient de notre métier, qui n'ont jamais fait d'apprentissage dans des collèges avant de prononcer les paroles dont vous faites commerce? Quoi, ferez-vous commerce des paroles de nos amis, qui étaient de notre métier? Allez, retournez travailler, et allez avec vos collèges, car notre frère Paul, fabricant de tentes, a dit « Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger ». Car reconnaîtriez-vous Christ s'il était venu de votre temps, lui qu'on appelait le fils du charpentier. Vous, pape, avec vos triples couronnes, et vous, évêque seigneur, avec vos carrosses et vos chevaux engraissés, et vos habits somptueux, avec vos manteaux noirs et blancs, et vos ceintures de soie, seriez-vous enclins à recevoir celui qu'on appelait le fils du charpentier, ou à le jeter, lui et sa mère, dans la mangeoire de vos étables ? C'était la parole par laquelle Jean l'Évangéliste vit le Christ, qui éclaire tout homme venant dans le monde, et vit comment il devint cher, et vint chez les siens, et que les siens ne le reçurent pas, mais à tous ceux qui reçurent le Christ la lumière, il donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce que tous ceux qui sont ministres de la lettre, faits par leurs 7 années d'études dans leur collège, et non par la parole, haïssant la lumière, ne peuvent connaître. Et par cette parole, le ministre de la parole prêche la parole du Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection. Et c'est pourquoi, comme Jean l'a dit dans son épître, « Ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, et ce que nos oreilles ont entendu de la parole de vie, nous vous l'annonçons, ce qui était dès le commencement. » Au commencement était la parole, bien que, depuis le commencement, il y eut des mots et des lettres, car les Écritures de vérité sont les paroles de Dieu, et les paroles du Christ, et celui qui ajoute à ces paroles a dit Jean dans le livre de l'Apocalypse, astérisque Dieu ajoutera sur lui les plaies qui sont écrites dans ce livre, etc. Astérisque la déclaration de Jean se rapporte à l'ajout de paroles au livre de l'Apocalypse, et non à la Bible. Les 50 premières Bibles, comprenant un volume avec un Nouveau Testament et un Ancien Testament, ne furent même pas compilées avant 331 après, J.C., soit bien après la mort de Jean. Ainsi la parole était au commencement, et le nom du Christ est appelé la parole de Dieu. Mais le Christ n'est appelé ni écriture ni écrit, car écriture signifie écrit. Ainsi au commencement était la parole, depuis le commencement, il y eut toutes les voix fausses de fausses églises, de faux docteurs, et dans la parole vous les comprenez tous. Les prêtres disent que l'hébreu, le grec et le latin sont l'original, mais les nombreuses langues commencèrent à Babel que Nimrod, le chasseur devant le Seigneur, commença à bâtir, après que Dieu eut détruit l'ancien monde par l'eau, puis il voulut construire une tour qui atteindrait le ciel, alors Dieu descendit et les confondit en de nombreuses langues. Ainsi il chassait devant le Seigneur, mais le Seigneur le poursuivit et le confondit dans toute son œuvre, comme il confondra tous les bâtisseurs qui courent devant lui. Et tous les prêtres qui ont acquis les nombreuses langues, qui commencèrent à Babel, disent aux simples ignorants qu'ils ont l'original et qu'ils sont les hommes orthodoxes, et ils prennent un habit différent du leur, et disent « Les Quakers sont un peuple simple, qui méprise les hommes orthodoxes savants, qui ont l'original. » Écoutez au peuple ! Si ces langues, qui surgirent lors de la confusion de Babel, sont l'original des prêtres qui les rendent orthodoxes et doctes, alors Pilate, qui crucifia le Christ, était un aussi bon docte orthodoxe qu'eux, car lorsqu'il crucifia le Christ, il écrivit un écriteau en hébreu, grec et latin, et le plaça au-dessus de lui. Il était aussi ignorant des Écritures et des matières orthodoxes et divines que vous, et vous autant que lui. Et l'apôtre a dit que les langues cesseront, alors ce qui fait, selon vous, les hommes orthodoxes et les doctes doit cesser, selon la doctrine des apôtres, et ainsi, les langues ne sont ni l'original, ni ce qui fait des orthodoxes ni des doctes. Et Jean, qui a donné les révélations, a dit que la prostituée et la bête sont assises sur les langues, etc. Et l'évangile éternel doit être prêché de nouveau à toutes les parentés et langues, ce qui était avant Babel, là où fut le commencement des langues. Or il est clair que l'évangile doit être prêché à toutes les nations et langues, et que les langues ne sont pas l'original, et qu'elles ne font ni des doctes ni des hommes orthodoxes. Mais il est clair que c'est la parole qui était au commencement qui fait un homme divin, oui, même des artisans qui sont vils et méprisables aux yeux des orgueilleux, et qui ont acquis les langues de Babel, qui sont confondus par les ministres de la parole qui étaient au commencement avant Babel, car toute la terre avait une seule langue et une même parole avant Babel. Et vous qui vous appelez des hommes orthodoxes faits par les langues, et dites que c'est là votre original, vous êtes si aveugle que vous ne pouvez voir qu'il y avait un original avant Babel. Car Énoch le prophète, le 7e depuis Adam, qui prophétisa dans l'ancien monde avant qu'il ne fût détruit, bien avant Babel, n'a-t-il pas parlé de la venue du Christ avec ses 10 000 saints, comme dans Jude ? Et Lamech prophétisa, dans l'ancien monde, au sujet de Noé et d'Adam, et d'autres pourraient être cités, qui étaient avant vos langues, que vous appelez votre original. Et ainsi nous disons que la parole de Dieu est l'original, qui accomplit les Écritures. Et c'est la parole qui fait un homme divin, qu'on appelle un marteau, mais c'est un marteau vivant, et qu'on appelle une épée du feu, mais c'est une épée vivante et un feu vivant pour marteler, abattre et brûler ce qui séparait et tenait l'homme loin de Dieu. Par cette parole l'homme est réconcilié de nouveau avec Dieu, ce qu'on appelle la parole de réconciliation. Par cette parole les hommes et les femmes sont sanctifiés et rendus purs. Et c'est la parole qui rend divins aussi bien les hommes que les femmes, et les fait entrer dans la nature divine, qui martèle et abat ce qui a corrompu leur nature. Et par cette parole ils sont conduits à une sagesse, une intelligence, une connaissance, un esprit et une puissance divin. Et c'est cette parole qui vit, demeure et subsiste à jamais, par laquelle les saints naissent de nouveau de la semence immortelle et de la parole de Dieu, eux qui se nourrissent du lait de la parole, jusqu'à une vie divine, une sagesse et une intelligence divine, et une nature divine. Et par cette parole ils voient toute chair être comme l'herbe, et comme la fleur des champs qui se fane, et la parole de Dieu qui vit, demeure et subsiste à jamais, c'est le Christ, dont le nom est appelé la parole de Dieu. Ainsi gardez la parole de patience, qui est au-dessus de tous les esprits impatients, et alors vous saurez que la parole de vie, la parole de patience et la parole de sagesse sont éternelles, et demeurent et subsistent à jamais. Tous ceux qui sont dans la lettre, hors de la vie et de la parole, n'ont de patience ni envers eux-mêmes ni envers les autres, car la parole de patience et la parole de vie, qu'il faut garder dans toutes les tribulations, étaient avant que la mort et les esprits impatients n'existent, concernant le culte de Dieu et le juif extérieur et l'offrande du juif intérieur avec leurs vêtements. Il y avait un culte à Jérusalem. 2. Il y avait un culte à la montagne où se trouvait le puits de Jacob. Jacob descendit en Égypte avec sa famille, et il mourut en Égypte, et ses filles le transportèrent hors d'Égypte et l'ensevelirent dans le pays de Canaan, dans le lieu de sépulture de son grand-père Abraham, et après plusieurs centaines d'années, les enfants d'Israël sortirent d'Égypte pour entrer dans le pays de Canaan, et là ils bâtirent Jérusalem et le temple, et il n'y avait qu'un seul temple dans le monde entier commandé par Dieu, et c'était à Jérusalem. Et auparavant, au jour de Jacob, un culte avait été établi à la montagne, près de Samarie, où Jacob creusa un puits. Ainsi, lorsque la femme de Samarie sortit pour puiser de l'eau au puits de Jacob, elle raisonna avec le Christ au sujet du culte, et elle dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais d'autres à Jérusalem. » Et le Christ lui répondit encore, « Le temps vient où ce ne sera ni à Jérusalem ni sur cette montagne qu'on adorera Dieu. » Là, il nie la continuité de ces deux lieux publics de culte, et après avoir fait cela, il établit un autre culte car il dit, « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, car l'heure vient, et elle est déjà là, où Dieu cherche de tels adorateurs. » Et ce culte, il l'établit et le prêcha il y a plus de 1600 ans, culte qu'il établit bien des centaines d'années avant le missel, le livre de la prière commune, le directoire ou la confession de foi de l'Église. Et tel était le culte public que le Christ établit en esprit et en vérité, car Dieu est esprit, et il cherchait de tels adorateurs, qu'il adorait en esprit et en vérité. Ainsi tous doivent veiller au culte que Dieu cherche, et non à celui que les hommes cherchent. Et le Christ dit que le temple serait renversé, la ville de Jérusalem, et les Juifs dispersés parmi toutes les nations. Et l'apôtre dit, « N'est pas juif celui qu'il est extérieurement, mais est juif celui qu'il est intérieurement dans l'esprit, et non selon la lettre, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Quoi, crie le monde, niez-vous le culte du temple ? Non, nous disons que tout homme et toute femme doivent entrer dans le temple, s'ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Et l'esprit n'est-il pas au-dedans, et la vérité dans les parties intérieures ? Car ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, qui est l'Esprit Saint, et peut-on adorer Dieu, qui est Esprit, en vérité, sans venir à l'Esprit et à la vérité de Dieu dans son propre cœur ? Ici nous établissons le culte public et du temple que le Christ a établi. Tout homme et toute femme dans le monde doivent y venir, la vérité dans les parties intérieures, et l'Esprit de Dieu au-dedans d'eux, et adorer en Esprit, ils doivent être en lui, et dans la vérité, pour adorer le Dieu de toute vérité qui est Esprit. Et c'est le culte public et universel, et cela amène tout homme et toute femme dans le monde à la vérité et à l'Esprit de Dieu dans leur propre cœur. Et ainsi cela amène tous à savoir que leurs corps sont les temples du Saint-Esprit, dans lesquels ils adorent, comme le Juif extérieur adorait dans son temple extérieur. Mais le temple, depuis les jours des apôtres, a été si rempli de fumée venant de l'abîme sans fond, et si rempli de ténèbres, qu'aucun homme ne pouvait entrer dans le temple pour adorer Dieu, et là l'Esprit de Dieu a été irrité et attristé. Et ainsi leurs prophéties, révélations et visions ont été niées par l'auteur de cette fumée. Mais le septième ange a versé sa coupe, de sorte que les hommes commencent à entrer dans le temple pour adorer Dieu en esprit et en vérité, et la gloire du Seigneur remplira le temple. Et le Christ et ses apôtres n'ont jamais changé ce culte en esprit et en vérité, bien que la bête et la prostituée, la fausse église, aient établi un autre culte depuis les jours des apôtres. Mais tous doivent venir adorer Dieu en esprit, ce qui était avant que leur culte fût établi, ce culte qui fut établi au jour des apôtres. Et ainsi tous doivent venir adorer Dieu en esprit et en vérité, ce qui était avant le missel, qui s'éleva bien des centaines d'années après le Christ. Mais cela a été le culte public et universel, établi par le Christ, le second Adam pour les fils d'Adam dans la chute, qui amène tout homme et toute femme à la vérité et à l'esprit de Dieu dans leur propre cœur. C'est dans cet esprit et cette vérité qu'ils doivent adorer Dieu. Mais crie le monde, les Juifs extérieurs ne priaient-ils pas dans le temple, et ne devez-vous pas prier dans le temple, si, le Juif en esprit prie dans son temple, et chante et se réjouit dans son temple, car quoi, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Et ainsi, si vous priez, vous devez prier dans le Saint-Esprit, et vous réjouir dans le Saint-Esprit, et chanter dans l'Esprit. Et comment pouvez-vous chanter, vous réjouir et prier dans l'Esprit, sans entrer dans le temple, vos corps étant les temples du Saint-Esprit? Car le temple du Juif extérieur a été renversé, et n'est pas juif celui qu'il est extérieurement, mais est juif celui qu'il est intérieurement dans l'esprit. Étienne fut lapidé à mort pour avoir nié le temple extérieur des Juifs et avoir rendu témoignage au Christ, et Étienne était rempli du Saint-Esprit, ainsi il était le temple du Saint-Esprit, et ainsi ceux dont les corps sont les temples du Saint-Esprit, ce sont des temples faits sans main d'homme, qui sont placés au-dessus de tous les temples faits de main d'homme. Mais si vous dites, les prêtres des Juifs ne demeuraient-ils pas dans le temple, et n'y avaient-ils pas à faire l'offrande dans le temple? En réponse, oui, il n'y avait qu'un seul temple dans le monde entier commandé par Dieu, et il fut établi à Jérusalem, et jamais il ne fut commandé d'en établir en Angleterre, en Irlande, en Écosse, en France, en Espagne, à Rome, mais les Juifs devaient soit aller adorer à Jérusalem, et y célébrer la fête des tabernacles, sinon leurs yeux devaient pourrir dans leur tête, et leur langue dans leur bouche, et leurs chameaux devaient mourir de telle ou telle plaie, comme vous pouvez le lire dans Zacharie. Et ils devaient venir de toutes les nations sous le ciel pour adorer et célébrer la fête des tabernacles à Jérusalem, et les apôtres y attendirent, au temps de la Pentecôte, d'être revêtus de la puissance d'en haut. Et ainsi ce temple fut renversé environ 40 ans après le Christ, car vous qui exaltez le culte du temple extérieur, fait de main d'homme dans vos propres nations, vous êtes pire que les Juifs, car ne devait avoir qu'un seul temple et un seul peuple, et ce temple est abattu ainsi que ce culte, et n'est pas juif celui qu'il est extérieurement, mais est juif celui qu'il est intérieurement dans l'esprit. Et ainsi le culte du Christ en esprit, et en vérité est établi au-dessus du culte extérieur des Juifs à Jérusalem, et du culte de la montagne près de Samarie, et le Juif intérieur est établi au-dessus du Juif extérieur, et au-dessus de l'offrande extérieure du Juif dans son temple extérieur, et du prêtre ayant des chambres dans le temple, qui était le lieu de leur offrande, le Juif intérieur offre dans son temple les sacrifices spirituels, et nulle part ailleurs il n'offre, sinon dans son temple, car par l'esprit il offre à Dieu. Et ceux qui offraient dans le temple des Juifs devaient porter les saints vêtements, de même vous devez le faire, vous qui êtes les vrais chrétiens, et qui êtes appelés une sacrificature royale. Quoi, tous les vrais chrétiens sont prêtres, oui. Quoi, les femmes sont prêtres, oui, des femmes prêtres. Et les hommes et les femmes peuvent-ils offrir des sacrifices sans porter les saints vêtements? Non. Quels sont les saints vêtements que les hommes et les femmes doivent porter? Le fin lin, et ils doivent aller vêtus de blanc. Est-ce le surplis du prêtre vêtement blanc de dessus des épiscopaliens? Non, le surplis est apparu quand le fin lin, la justice des saints, et le fait d'aller en blanc furent perdus. Qu'est-ce que le fin lin et le fait d'aller en blanc, que cette sacrificature royale doit porter, qui sont les vêtements royaux? C'est la justice du Christ, qui est la justice des saints, c'est là le vêtement royal de la sacrificature royale, que chacun doit revêtir, hommes et femmes. Ainsi chacun, revêtez vos robes, revêtez vos vêtements, la justice du Christ, comme un manteau, afin d'offrir au Seigneur une offrande en justice. Vous qui êtes sensibles aux miséricordes du Seigneur, offrez-lui votre louange, sa gloire et son honneur, votre sacrifice spirituel dans votre temple, comme des odeurs suaves, la myrrhe et l'encens. Et lorsque le temple des Juifs fut purifié et que les décombres en furent jetés dehors, la gloire du Seigneur remplit le temple. Et lorsque vos temples sont purifiés et que les décombres en sont jetés hors de vos temples par votre grand prêtre, Jésus-Christ, dans l'homme et dans la femme, qui détruit le diable et ses œuvres, vous serez témoins d'un renouvellement jusqu'à l'image de Dieu, en justice et en sainteté, comme l'homme l'était avant que le serpent n'y ait introduit des décombres. Ainsi le Christ, qui détruit le diable et ses œuvres, les ramène à l'état où l'homme et la femme étaient avant qu'il n'entrât en eux, c'est-à-dire à la justice et à la sainteté, et jusqu'à lui-même, à la mesure de la stature parfaite du Christ, qui fut glorifié avec le Père avant que le monde fût. Ici la gloire du Seigneur remplira chacun de vos temples, par lesquels vous viendrez à louer le Seigneur dans votre temple, et à offrir une offrande en justice dans votre temple par l'Esprit, un sacrifice spirituel à Dieu, qui est Esprit. Ainsi ici vous êtes une sacrificature royale, offrant les sacrifices spirituels. Et le Juif extérieur ne devait-il pas avoir du feu et des lampes brûlant toujours dans son temple? Et les Juifs en esprit ne doivent-ils pas toujours avoir la parole, qui est un feu dans leur temple, et la lumière du Christ? Car le Christ ne dit-il pas, « Ayez de l'huile dans vos lampes ». Et leur corps n'était-il pas cette lampe? Et n'y avait-il pas à avoir du sel dans le temple des Juifs, pour assaisonner leurs sacrifices? Et ainsi, ne devez-vous pas toujours avoir du sel en vous-même? Le Christ ne le dit-il pas, par lequel vous pouvez avoir de la saveur et être assaisonné, afin que tous vos sacrifices soient assaisonnés de sel. Et vous savez que les Juifs extérieurs ne devaient pas offrir l'aveugle, le boiteux, l'impur et l'estropié dans leur temple, De même, vous qui êtes les Juifs en esprit, ne devez pas offrir l'estropié, le boiteux, l'impur, ni le porc, ni l'aveugle, mais le sacrifice spirituel par l'Esprit à Dieu qui est esprit. Par cet esprit vous voyez, et par cet esprit vous êtes rendu pur et sanctifié, et rendu capable de mortifier cette nature porcine. Par cet esprit vous venez à marcher droit sans boiter en marchant dans l'esprit, vous venez. Et c'est l'offrande permanente dans le temple où demeure le Christ votre prêtre, lui qui met fin aux prêtres des Juifs qui demeuraient dans leur temple extérieur, et met fin à leur temple, et met fin à leurs offrandes et sacrifices, et au sang des taureaux et des boucs. Le Christ l'offrande, une fois pour toutes leurs offrandes, et le Christ l'alliance éternelle, met fin à la première alliance, et le Christ le temple, met fin au temple extérieur des Juifs, où se trouvaient leurs offrandes et sacrifices, et au sacerdoce, et établit la sacrificature royale, avec son vêtement royal, sa justice, qui offre à Dieu les sacrifices spirituels dans le temple. Et ainsi le Christ met fin à tous les types, figures et ombres, et aux choses changeantes qui furent données à l'homme depuis la chute et soutenues par la loi, à laquelle il ne devait rien ajouter ni en retrancher, laquelle subsista près de 2000 ans. Cette loi servit jusqu'à la venue du Christ, et elle était bonne en son lieu, et elle fut ajoutée à cause des transgressions. Quand beaucoup transgressèrent l'image de Dieu, sa justice et sa sainteté, et en tombèrent alors la loi juste, qui est bonne, sainte et juste, vint sur l'homme, et cela servit avec toutes ses ombres jusqu'à ce que vienne la semence, le Christ. Mais le Christ est venu, lui qui était la fin de la loi en vue de la justice, pour quiconque croit, et en Christ il n'y a ni ombre, ni variabilité, ni changement, car il était avant que les ombres ne fussent glorifiées avec le Père avant que le monde fût, lui qui est le premier et le dernier, le comme. Bien qu'il soit le fondement de nombreuses générations, tous les héritiers du monde ne connaissent pas sa génération. Ceux qui sont dans la première naissance, dont l'édifice n'est pas sur Christ le rocher, mais sur le sable. Et c'est pourquoi leurs maisons de religion et de culte ont si souvent été abattues par les tempêtes de la mer, n'étant pas sur le rocher Christ Jésus, qui est au-dessus de toutes les tempêtes et tourmentes du monde, et avant que la mer ne fût, lui qui est le lion de la tribu de Juda, et la racine de David, et l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et l'agneau doit vaincre tous ceux qui sont dans la nature des bêtes sauvages, des génies sauvages, des chiens, des loups et des chevaux. Et n'est-ce pas un mystère pour vous tous que l'agneau enlève vos péchés, de sorte que l'agneau ait la victoire sur la nature canine, lupine, génissière et porcine en vous, comme des chevaux ou des serpents. L'agneau pur et saint doit avoir la victoire sur tout cela en vous, joignez-vous donc à celui qui a la victoire, qui est le chef de votre salut, qui écrase la tête du serpent, le Christ, la semence c'est lui, qui brise la puissance du serpent et le met en pièces, le détruisant avec ses œuvres. Ici le Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs, il est monté au-dessus de toute principauté, puissance et trône, lui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Ainsi ce qu'il vous ouvre par sa lumière, nul ne peut vous le fermer, lui qui remplit vos lampes de l'huile d'allégresse, et le Christ ferme à tous ceux qui nient sa lumière, car il le nie, alors nul parmi eux ne peut ouvrir, et cela les fait courir ensemble au dehors autour de leur culte, de leurs églises et de leurs écritures, et se persécuter les uns les autres. Bien qu'ils professent le Christ, pourtant en niant sa lumière ils le nient, ce sont des antichrists qui sont contre lui, tout en le professant, et ceux-là sont condamnés par la lumière, qui sont contre la puissance de Dieu et l'Évangile. La puissance de Dieu la croix est pour eux une odeur de mort, mais une odeur de vie pour ceux qui sont dans la vie. Et en moi vous avez la paix, dit le Christ, et il donne la paix à ceux qui sont en lui, que nul ne peut leur ôter, mais dans le monde vous avez de la tribulation, dit le Christ, c'est-à-dire en Adam, dans la chute hors de la justice et de la sainteté, car dans la justice il y a la paix, et dans la sainteté les hommes voient Dieu, et hors de cette sainteté ils ne voient pas Dieu. Concernant ceux qui boivent le vin nouveau, et ceux qui boivent le vieux, et quelles sont les outres qui contiennent l'un et l'autre, et de qui les dents sont agacées, et de qui elles ne le sont pas. Or tous ceux qu'on appelle la chrétienté professent croire au nom du Christ. Pourtant regardez-les, voyez quelle famille confuse c'est, pire que les Turcs, les Mogols et les païens, car dans le pays des Turcs il y a des Juifs, des chrétiens et des Turcs, et les Turcs gardent leur sabbat le sixième jour, les Juifs le septième jour, et les chrétiens le premier jour, et les Turcs ne les persécutent pas pour la religion, mais les laissent jouir de leurs assemblées. Et il est dit du Mogol qu'il y a eu 60 sortes de religions dans son pays, mais il n'en persécute aucune pour sa religion, et les laisse tenir leurs assemblées. Et que tous ceux qu'on appelle la chrétienté, professant le nom du Christ, se persécutent les uns les autres et se mettent en pièces à propos du culte, de la religion, et de la maison à clocher, à laquelle ils ont donné le titre d'église, titre pris au peuple et donné à une maison. Et qu'ils se persécutent les uns les autres à propos de manger de la viande et du poisson, du carême, des jours saints, des jeûnes, des manteaux blancs, des manteaux noirs, des ceintures, des camails et des capuchons, des autels, des croix et des chandeliers, des processions, et d'aller aux tombes chercher des reliques et visiter de tels lieux. Et que ceux qui professent le Christ se crêlent pour des choses extérieures, se mettent en pièces à propos de choses extérieures, et se tuent, s'emprisonnent et se brûlent les uns les autres pour de telles choses, et pour leurs sacrements et baptêmes, qui sont du pain, de l'eau et du vin. Le royaume de Dieu ne consiste pas en aliments ni en boissons, ni en viande ni en poisson, ni en jour saint ni en jour de jeûne, ni en camail ni en capuchon, ni en ceinture, ni en manteau blanc ni en manteau noir, ni en autel ni en chandelier, ni en procession, ni en chapelet, ni en maison à clocher. Le royaume de Dieu consiste en justice, en foi et en joie dans le Saint-Esprit. Et là où il y a justice, il y a paix, et là où il y a la vraie foi, il y a la victoire et l'édification mutuelle dans la sainte foi, mais hors de cette foi il n'y a ni édification ni victoire, mais Caïn l'offreur de sacrifices persécutant Abel. Et c'est pourquoi, on ne tient pas pour sage homme et sage femme ceux qui se persécutent les uns les autres à propos de choses dans lesquelles le royaume de Dieu ne consiste pas. Aimez donc les uns les autres. Au lieu de vous persécuter les uns les autres, soyez doux et non orgueilleux, suppliez et ne menacez pas, bénissez et ne maudissez pas, aimez et n'haïssez pas, faites le bien et non le mal, vivez dans la volonté de Dieu et ne soyez pas entêtés, considérez la religion du Christ et non la vôtre, car vous vous persécutez les uns les autres à propos de vos propres choses que vous inventez, et non de celles du Christ, car la religion du Christ n'admet aucune persécution ni violence, ni de haïr amis. Et ainsi se mordre et se dévorer les uns les autres a été la manière de se consumer les uns les autres. Car n'y avait-il pas plus de vrais chrétiens avant qu'après l'élévation du pape? Car quand ils commencèrent à se mordre les uns les autres, alors ils se consumèrent les uns les autres. Et vous lisez dans les Écritures qu'il y a deux outres, l'outre vieille qui contient le vieux vin, et l'outre nouvelle qui contient le vin nouveau, et celui qui boit du nouveau ne désirera pas boire du vieux, et celui qui boit du vieux ne désirera pas boire du nouveau. Et le Christ est la vigne qui fournit ce vin nouveau, qu'on met dans l'outre nouvelle. Et ceux qui croient en sa lumière et deviennent enfants de sa lumière s'assoient sous sa vie et boivent de son vin. Et Adam dans la chute est l'outre vieille, qui contient le vieux vin de la transgression, où sont tous les raisins aigres, et ceux qui sont assis dans la transgression boivent des raisins aigres, dont leur outre est pleine, pleine du vin de la fureur de la fornication. Ainsi ils ne boiront pas du nouveau. Ainsi ce vieux vin, qui vient des raisins aigres, leur agace toutes les dents, par quoi ils se mordent et se dévorent les uns les autres, et ainsi sont consumés les uns par les autres, et se dévorent les uns les autres, par leurs morsures avec leurs dents aiguisées. Que tous les lieux appelés chrétienté en rendent témoignage depuis qu'il y a un pape, et depuis qu'un turc s'est élevé, et comment c'était avant qu'il y ait un pape ou un turc, quel grincement et quelle morsure avec des dents aiguisées, et quel fait de se consumer les uns les autres. Il y a jusqu'à ce jour, à propos de religions qu'ils se sont faites eux-mêmes et qui sont l'œuvre de leurs propres mains, contrairement à la religion du Christ et des apôtres, et ils se sont nourris des œuvres de leurs mains et ont mordu les autres de leurs dents aiguisées. Mais ceux qui boivent du vin nouveau et ne désirent pas boire du vieux ne mordent pas, mais s'aiment les uns les autres et aiment leurs ennemis. Ainsi ils ne sont pas consumés les uns par les autres, mais vivent dans l'amour, la paix et l'unité, et s'attachent à ce en quoi consiste le royaume de Dieu, la justice, la foi et la joie dans le Saint-Esprit. Et il y a la religion pure d'en haut, qui se garde des souillures du monde, c'est-à-dire visiter les orphelins et secourir les veuves, et vivre dans l'unité et la communion de l'Esprit, qui est le lien de la paix, et vivre dans la loi de l'Esprit de vie, qui rend libre de la loi du péché et de la mort, vie qui était avant que le péché fût ou que la mort fût. Et ceux-là s'assoient sous leur propre vigne, le Christ, dans la communion de l'Évangile, la puissance de Dieu qui était avant que le diable fût, et ils sont l'Église en Dieu, et le Christ est leur tête. Mais ceux qui ont l'outre vieille pleine du vieux vin, qui vient des raisins de la transgression, par quoi leurs dents sont agacées, obéissent à la loi du péché et de la mort, et sont sous l'autorité du prince de l'air et des ténèbres, et sont sous la puissance de la mort, et ils font ses convoitises et ses œuvres, lui qui était menteur dès le commencement, dont la religion repose dans un mensonge et non dans la vérité qui a franchi, mais c'est justement ce dont le diable est hors, et tous ses serviteurs, et c'est pourquoi ils combattent la vérité avec leurs dents aiguisées. Et vous tous qui professez Jésus et vivez hors de la loi de Jésus, la loi d'amour et de foi et l'esprit de vie qui est en lui, vous êtes tous entassés autour de ses paroles et de celles des apôtres, comme les scribes, les pharisiens, les juifs et les sadducéens qui professaient la loi de Dieu et ses prophètes, et vivaient hors de la loi de Dieu et de la vie de ses prophètes, cela était entassé comme le sont maintenant les chrétiens qui ne vivent pas dans la loi de Jésus, qui ne peuvent s'édifier les uns les autres, mais sont les outres vieilles, pleines de vieux vins. Concernant le fait de se rassembler au nom de Jésus, Christ Jésus, le second Adam, qui vint parmi les fils d'Adam déchu, vous pouvez voir le commencement de l'établissement de ces assemblées lorsqu'il dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Ainsi vous voyez ici que le Christ commence avec un petit nombre, deux ou trois, car il y avait le rassemblement des Juifs, des scribes et des pharisiens, vers leurs temples et synagogues. Et de même, il y avait le rassemblement des païens vers le temple de Diane. Et tous ceux qui se rassemblèrent au nom de Jésus sortirent de la synagogue et du temple des Juifs, et pareillement les païens, pour entrer dans le nom de Jésus, dont le nom est au-dessus de tout nom, et il n'y a de salut par aucun autre nom sous le ciel entier que par le nom de Jésus, c'est en lui qu'est le vrai rassemblement, où tous connaissent leur salut. Et ainsi ceux qui sont rassemblés dans le nom de Jésus sont rassemblés dans sa puissance et son autorité. Car vous savez que lorsqu'un impôt ou une taxe est levée au nom du chef ou des chefs d'une nation, cela vient avec puissance et autorité, et vous y obéissez, soit activement, soit passivement. Ainsi ceux qui sont rassemblés au nom de Jésus sont rassemblés dans la puissance du second Adam, dont la puissance et l'autorité sont au-dessus de la puissance des fils et filles du premier Adam, par cette puissance, et au nom de qui les gens y sont rassemblés, mais le Christ dont le nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a de salut par aucun autre sous le ciel que par le nom de Jésus. Et ceux qui sont rassemblés dans ce nom de Jésus par sa puissance en laquelle ils connaissent leur salut, voient qu'il n'y a de salut par aucun autre nom sous le ciel. Ils font leurs adieux à tous les autres noms et rassemblements sous le ciel, sachant qu'il n'y a de salut qu'au nom de Jésus, et cela accomplit la prophétie de Jacob, qui dit « Le sceptre ne s'éloignera pas d'entre les pieds de Juda jusqu'à ce que Shiloh vienne, et le rassemblement de toutes les nations sera à lui. » Il est donc clair que si le rassemblement de toutes les nations est au Christ, elles doivent abandonner tout ce dans quoi elles étaient rassemblées auparavant. Et c'est pourquoi cela met en colère tous les chefs des voies nationales qui les soutiennent, et contre cela l'agneau fait la guerre en justice, allant de victoire en victoire pour vaincre, afin qu'il règne, lui à qui appartient le droit, et qu'il assujettisse toutes choses à lui-même, en son nom toutes choses doivent être faites, et vers lui tous les peuples doivent être rassemblés, lui que Dieu a donné pour salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et de même cela accomplit la prophétie de Moïse, qui dit « Dieu suscitera un prophète comme moi, que le peuple écoutera en toutes choses, lui qui est le salut jusqu'aux extrémités de la terre, vers lequel le rassemblement de toutes les nations doit se faire. » Et ceux qui sont rassemblés en son nom font et doivent l'écouter en toutes choses, lui par qui toutes choses furent faites et créées, lui qui fut glorifié avec le Père avant que le monde fût. George Fox, aux lettres précédentes, lettre suivante.